Donc, mais bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Blabla Blog. Donc, pour tout vous avouer, en fait, j'étais assez impatient de vous parler de cette sixième émission et pour plusieurs raisons. Car, premièrement, je vais vous présenter un nouveau blog qui s'intitule donc Séraphine boit beaucoup trop de café. Boit trop de café, en fait, tout simplement. Je dis beaucoup, mais c'est beaucoup, boit trop de café. Alors, vous allez me dire, du coup, ouais, bah, génial, une blogueuse axée sur la caféine. Donc, en fait, bah, voilà, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. On demandera du coup tout à l'heure à Séraphine la signification de ce nom plutôt étrange par rapport à son blog. Deuxièmement, je parlais de sujets complexes. Alors, en fait, je vais faire d'une pierre deux coups, parce qu'en fait, nous allons parler du blog donc de Séraphine, évidemment, et du sujet dont il traite, qui sera également le thème particulier de ce blablablog, que seront les pervers narcissiques, en fait. Et donc, troisièmement, dernier point, nous allons avoir plusieurs invités au féminin, qui ont vécu avec ce genre de personnage pendant un certain nombre de temps, ou qui le vivent en ce moment même d'ailleurs. Et vous serez donc le témoin de plusieurs situations tout à fait différentes et vous constaterez l'étendue, entre guillemets, des dégâts que peut engendrer un pervers narcissique. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour de table, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc connaître chacune des différentes intervenantes par rapport à ce blablablog. Du coup, on va commencer par Aurélie, par exemple. Voilà. Donc salut Aurélie.
Ouais.
Donc bah, ce que je te propose, c'est qu'on va d'abord bah, on va décliner notre identité, donc des trucs tout simples, voilà. Donc d'où tu viens, si tu tiens, si tu tenais un blog, etc. Voilà, tout simplement te présenter. Voilà.
En fait, je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans,
Ouais.
j'habite en Île-de-France,
D'accord.
et suite à différents aléas de la vie, notamment trouver du travail, j'ai dû retourner vivre chez mon père 2 fois en 1 an.
D'accord.
Et enfin en un an, la durée. Et depuis ce moment-là, donc ça fait 5 ans, il me fait vivre un enfer.
D'accord.
Malgré mon âge et je me débrouille, hein, je suis autonome, je suis une grande fille. C'est des brimades quotidiennes.
D'accord.
Oui, tu trouves pas de boulot parce que de toute façon t'en cherches pas, t'en veux pas, t'es trop bien ici,
D'accord.
t'es une merde, tu n'arriveras à rien, si tu trouves pas de boulot,
Ouais.
c'est parce que de toute façon t'es trop bête, tes études ça ne servait à rien, j'aurais dû t'empêcher d'en faire parce que t'es pas capable, la preuve, je suis obligée de te supporter, t'es à ma charge, je me fous de la tête, tu m'emmerdes.
Alors,
Enfin, c'est.
je t'arrête 30 secondes, du coup, on va faire le tour, du coup, et puis on va revenir vers toi, justement. J'avais commencé, justement, par toi, justement, Aurélie. Donc, on va
Donc voilà,
continuer.
c'est mon père, c'est mon père.
Ok, donc bah, Maïva, je sais, car du coup, Maïva est assez timide, si j'ai bien compris.
Un petit peu, ouais, un petit peu.
Vas-y, Charles,
Du
vas-y.
coup, je fais quoi? Je me présente et je résume un peu ou je me présente juste?
Présente-toi simplement d'abord, on fera un petit tour en se présentant effectivement d'abord
D'accord.
simplement, puis après on ira un peu plus en profondeur, si je puis dire, dans les différents sujets. Voilà.
D'accord. Donc, je m'appelle Maëva, j'ai 27 ans et j'habite dans un coin paumé autour de Bordeaux. Voilà.
D'accord, très bien. Donc la fine équipe, Lucille et Sonia. Peu importe, Sonia ou Lucille.
Ben, moi, c'est Sonia, j'ai 24 ans et j'habite à Strasbourg.
Ok.
Voilà.
Très
Et
bien.
moi, c'est Lucille, j'ai 23 ans et j'habite aussi Strasbourg.
D'accord. Et enfin, donc Séraphine.
Alors, oui, moi, c'est Séraphine, j'ai 28 ans et pour le coup, je suis du centre belge.
D'accord, très bien.
Et oui. Et moi, je n'ai pas d'accent.
C'est pas grave, pas de souci. Sachant que dans l'idée, donc l'idée de ce podcast-là, il y aura tout au long du podcast le fil rouge qui sera ton blog, du coup, Séraphine, qu'on va essayer de poser des petites questions sur, du coup, ton blog est en relation directe avec le sujet. Voilà.
Oui, voilà. J'ai commencé à l'écrire quand j'ai décidé de quitter mon PN à moi.
Voilà,
Donc ça
exactement.
retrace un petit peu le parcours que j'ai fait pour m'en sortir.
Donc du coup, tu vas nous aider entre guillemets à développer un petit peu les différents, savoir ce que toi tu en penses déjà dans un premier temps. Puis c'est aussi le but, savoir c'est partager les différents avis par rapport à tous ces sujets-là, et savoir ce que toi tu en penses et si tu peux nous aider à éventuellement à donner quelques pistes, à savoir comment essayer de s'en sortir ou pas, comment on peut faire, voilà, comment on peut faire, comment on peut écouter, comment on peut réagir par rapport à telle situation, sachant que c'est, ouais, comme je disais, c'est des situations toutes différentes les unes des autres, ce qui n'est pas forcément simple, quoi.
Tout à fait, ben ce sera avec un grand plaisir.
Merci. Donc du coup, on revient sur Aurélie, du coup, qui du coup, elle, je te redonnais la parole, Aurélie, du coup, par rapport à ton sujet à toi, où là, en fait, tu le vis actuellement, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait, et j'en ai pris conscience en fait grâce à ma thérapeute. Parce qu'il faut savoir qu'un jour avec mon père, on a eu une explication violente où il m'a projeté littéralement contre un meuble. Et là, je suis allée voir ma toubib, qui en est parlé. Elle m'a fait un certificat médical m'invitant à les porter plainte. Ce que je n'ai pas fait, puisque mes sœurs m'ont découragée en me disant « Oui, mais tu comprends, la famille, tu vas foutre le bazar dans la famille, tout ça. » Ok, je vais porter plainte.
Et c'était il y a combien de temps, ça?
C'était il y a 5 ans.
5 ans, d'accord.
Ouais. Et puis, bon, j'ai pas fait. Puis, peu de temps après, rebelote, re-explication très violente. Il y avait ma plus jeune sœur qui était là, elle a 25, elle avait 24 ans, elle avait 23 ans à l'époque, je sais plus, quelque chose comme ça. Et sauf que, bah, moi, du coup, j'ai fait une crise de tétanie.
D'accord.
Tellement les nerfs ont lâché, tellement il enchaînait. Ma petite sœur est intervenue, elle s'est mise séparée, lui a dit, c'est bon, laisse-la tranquille, fouille la paix. Et continuer, vous l'avez la main sur moi, ma sœur l'a empêché, l'a dégagé. Mais sauf que moi, du coup, j'étais au sol, en fait, et je faisais vraiment une crise de tétanie, je tremblais partout, j'étais pas bien. Donc ma sœur a appelé ma mère, qui est venue, mais qui n'a pas su quoi faire, etc. Ils ont appelé un médecin du SAMU, qui a discuté avec moi, sauf que problème, j'avais perdu l'usage de la parole. J'étais incapable de prononcer un mot, de sortir le moindre son.
D'accord.
Par des gémissements. Et donc, je suis allée passer quelques jours chez ma mère pour me reposer. La parole m'est revenue au bout de 24 heures, que je me calme. Et donc, j'ai passé quelques jours chez ma mère, et ma mère m'a accompagnée chez ma généraliste pour lui en parler encore à nouveau. Et là, elle m'a donné les coordonnées d'une psychothérapeute.
D'accord.
Que je suis allée voir tous les mois. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience que je vivais avec un pervers narcissique et que mon père, en fait, j'ai toujours voulu qu'il m'admire, qu'il ferme l'effort, mais qu'il reconnaisse mes mérites. J'ai fait des par l'école, je me suis intéressée à plein de choses, je me suis énormément cultivée, c'est bien que maintenant ma famille m'appelle Madame la Science, parce que ce qui paraît, je suis en passeur sans arrêt.
D'accord.
J'ai voulu m'élever à un niveau pour être digne de lui.
D'accord.
Et depuis toujours, hein, même depuis le collège, etc. Quand j'avais des mauvaises notes, oui, tu finiras caissière à Franprix, voilà, tellement t'es bonne à rien, etc., etc. Donc j'ai toujours voulu, avoir son admiration. Et donc avec ma thérapeute justement, on a fait un gros travail pour que j'apprenne à ne plus attendre quoi que ce soit de lui, puisque de toute façon, j'attends des choses qui n'arriveront jamais.
D'accord.
Donc c'est pas la peine. Néanmoins, les brimades et le harcèlement moral, parce que c'est vraiment ça, continue tout le jour. Si bien que oui, ce qui me reproche, c'est ça, c'est-à-dire que j'arriverai jamais à trouver un boulot vu comment je suis. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à écrire une lettre de motivation, par exemple, puisque j'ai perdu toute confiance en moi. Pour moi, je suis nulle, bonne à rien, je n'arriverai à rien. Et donc mon conjoint depuis un an et demi m'a aidé à retrouver un peu une confiance en moi. Et au début, quand je lui racontais ce qui se passait à la maison, quand je l'appelais en pleurs parce qu'il y avait une séance, au début, il mettait un peu en doute et il a appelé ma petite sœur pour vérifier un petit peu si je rajoutais pas un peu. Et elle lui a dit, c'est encore pire que ça. Mais lui, il comprenait pas, parce que mon père devant lui, non, Aurélie, c'est très bien, etc., etc.
D'accord.
Maintenant, il laisse tomber son masque, c'est-à-dire que même devant mon conjoint, les brimades, les remarques, plusieurs fois, mon copain a failli lui rentrer dans l'art parce que les réflexions du genre « oui, si tu poussais ton gros cul, ça arriverait pas, oui, si t'étais moins con, tu serais plus là, oui, si vraiment tu voulais te barrer de la maison, tu te barrerais, mais t'es trop bien. » J'ai dit, ouais, c'est vrai que je suis trop bien, me prendre dans la gueule plus que tu me balances, ouh, c'est du bonheur. Oui, mais non, c'est ça, c'est mon quotidien.
Donc c'est des propos assez violents, quoi, finalement, assez.
Ah, c'est ça, une fois on s'était disputé, j'ai appelé ma petite sœur, qui a appelé mon père qui l'a engueulé, et ils sont embrouillés à cause de ça. Et l'autre jour, on est sorti, t'es une vraie salope, t'as voulu nous brouiller avec ta sœur, mais ça marchera pas, on est plus fort que ça, mais t'es vraiment une belle salope, t'es la reine des salopes, à faire ça. ça part d'un père, ça pique.
Et est-ce que avant de comment dire, est-ce qu'avant de savoir ce que c'était qu'un pervers narcissique, est-ce que tu savais ce que c'était, enfin, est-ce que tu savais ce que c'était que ça justement, ou pas?
Non,
du tout.
Non, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout du tout.
Et t'es, tu, enfin ouais, t'avais le, voilà, t'avais un nom sur ce que tu voulais savoir quand même, j'imagine.
Bah, pour moi, c'était du harcèlement moral et ça allait pas trop loin. Pour moi, c'est pas normal qu'un père fasse subir ça à son enfant. Ben si, oui, bah, 33 ans, c'est peut-être pas marrant pour lui d'avoir sa fille, enfin, sa fille de 33 ans soit chez lui, surtout qu'il veut vendre la maison, déménager, aller couler sa retraite ailleurs au soleil. Je le comprends tout à fait, je vous l'ai dit. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas par choix, c'est je trouve pas du boulot, c'est pas que je veux pas. Il s'avère aussi que j'ai une maladie génétique, la maladie de Crohn. Et que c'est pas facile de trouver du, ben, je peux pas prendre n'importe quel emploi. Un emploi de caissière, par exemple, ben, on peut pas quitter sa caisse comme ça du jour au lendemain. Enfin, de la, à la seconde. Pour se rendre aux toilettes. Ben, on, je peux pas porter des charges lourdes, rester debout trop longtemps, etc. Mmh. Ça, il a du mal à le comprendre. Oui, mais quand on veut travailler, quand on veut, on peut. Il y a des handicapés qui trouvent du boulot.
D'accord.
Et du boulot adapté à leur handicap. Oui, mais non, c'est dans sa tête. Pourquoi n'est-il avec moi chez la gastroentérologue?
D'accord.
Non, il l'a un peu manipulé aussi en disant que je faisais pas d'efforts et tout. Alors maintenant qu'on va pas bien, oh mais Aurélie, vous êtes jeune, vous êtes en forme. C'est fou de ma gueule.
D'accord. Alors qu'est-ce que vous en pensez tout du coup? Est-ce que je rejoins un peu Séraphine sur ce coup-là? Est-ce que l'effet geste du père d'Aurélie, c'est assez typique de ce genre de personnage ou pas?
Mais disons, après, bon, je vais pas m'ériger en tant que spécialiste.
Oui, non, mais alors, oui, surtout, faut le préciser, ça, c'est pas du tout un débat de pro, hein, c'est juste
voilà, une exactement.
Question très simple. Voilà.
Mais si je me base voilà, sur mon expérience à moi, oui, c'est carrément ça, c'est détruire l'autre pour se valoriser d'une façon ou d'une autre. C'est... Le pervers narcissique, de toute façon, il voudra toujours être le meilleur dans tout, un modèle pour les gens qu'il séduit, entre guillemets. Donc, ben voilà, dire qu'elle n'est bonne à rien, la placer un peu sous sa coupe, comme ça, en la gardant dans un état un peu infantile, je vais dire, c'est vraiment aller se nourrir de son énergie, de son ego, pour renforcer le sien, quoi. C'est vraiment, vraiment ça. Et les mots très durs, enfin les dévalorisations systématiques, c'est complètement dans ce que je pense être les caractéristiques du pervers narcissique.
C'est complètement ça, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
D'accord. Et mais du coup, donc ça, en fait, avant de t'apercevoir que bah, l'état dans lequel était ton père, c'était le cas auparavant, bien avant ça, ou ça toujours?
Je me suis rendu compte justement grâce à ma thérapeute que ça a toujours plus ou moins existé puisque par exemple je faisais partie des victimes à l'école, hein, de l'école primaire, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très réservé, de voilà, moi je restais un peu dans mon coin ou quoi, si on me foutait la paix, j'étais heureux. Et donc j'étais un peu une victime à l'école, et oui, c'est de ta faute, tu te victimises, tu donnes envie aux autres de te maltraiter.
D'accord.
Moi, je ne demande rien à personne, juste qu'on ne passe pas les coups. Mais je donne envie aux autres de me maltraiter. Bon, d'accord. Au collège, c'est pareil. Sans arrêt, camarades. Voilà, on me déraillait mon vélo tous les jours, etc. Oui, mais c'est de ta faute. Tu dis que tu...
D'accord.
Je trouve que tu as dit un truc très intéressant. Quand t'as dit que t'avais le sentiment d'être victime à l'école, mais je trouve qu'en fait, il y a des profils de victimes de pervers narcissiques. Quand j'écoute les histoires un peu autour de moi, des personnes qui ont vécu la même chose que moi ou d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose, une sorte de problème avec soi-même qui n'est pas réglé. Et en fait, le PN a juste la capacité d'exploiter ce problème-là. Et du coup, j'ai l'impression que ton père, il axe beaucoup sur le côté que t'as pas réussi ta vie, tu ne veux pas quitter la maison, tu ne veux pas prendre ton indépendance. Et que finalement, s'il exploite ce côté-là, c'est peut-être parce que c'est une angoisse, que d'ailleurs qui n'est pas forcément du tout fondée, hein, mais que peut-être que toi, tu es en toi et c'est pour ça qu'il appuie dessus. Enfin, c'est une question, moitié question, moitié témoignage, quoi.
Ouais, il arrive à déceler le point faible, c'est ça, en fait.
Ouais. J'ai l'impression, que ça fonctionne comme ça.
Oui, oui, pour ça, il s'est appuyé, ça fait mal, ça c'est sûr. C'est vrai qu'à une époque, il y avait ça. Parce que quand il parlait de vendre la maison, pour moi, voilà, c'est la maison de mon enfance. j'ai grandi ou mes sœurs ont grandi, donc c'est vrai que par moments, ça me fait un an, quoi. Et puis, bah, en fait, ce qui me fait subir, ça a pris largement le pas sur moi, j'ai hâte de partir. À une époque, c'est vrai que je voulais rester, mais parce que, en fait, après tout, j'ai fait ses parents en 99, donc moi, je suis restée vivre avec mon père.
D'accord.
Et on a noué une relation qui était plus fils, plus pas pote, mais presque, que père-fille. On allait au ciné toutes les semaines, on faisait des trucs. Il vendait des fleurs sur les marchés, je venais l'aider avec lui tous les week-ends, etc. Et donc, il a créé une relation de codépendance. Comme j'ai pas le permis, en plus, j'avais besoin de lui tout le temps pour m'emmener à droite à gauche. Mmh. Et du coup, je pense que voilà, il s'est engouffré dans la brèche. Il a senti où étaient mes faiblesses, mes failles. Et du coup, ouais, c'est littéralement engouffré.
Il a exploité un peu le truc, quoi. Et du coup.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que il y a souvent deux phases comme ça chez le pervers narcissique, pardon. Il y a une phase un peu d'approche où il va essayer, ben voilà, de tâter le terrain, où ben, les relations vont être super chouettes. Ben, dans les situations amoureuses, c'est plutôt ce qu'on appelle du love bombing, donc c'est des je t'aime à n'en plus finir, c'est des cadeaux, des surprises, des machins. Je sais pas exactement comment ça se passe en famille, mais là tu dis apparemment qu'il y a une espèce de relation de codépendance, d'amitié et tout, donc ça ressemblerait un peu à ce qui se passe dans les relations affectives, quoi. Et après seulement, quand il t'a bien analysé, quand tout est mis en place, là c'est vraiment la descente aux enfers qui commence, et les cassages à répétition, et s'engouffrer dans les failles pour tout faire exploser, quoi. Mm-hmm. Donc je connais un peu moins bien les relations père-fille, etc., mais ça m'a l'air en tout cas d'être vraiment la transposition de la relation amoureuse dans une relation un peu plus filiale, quoi.
C'est très clair, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, à ce niveau-là, c'est que toi, les solutions que tu as pu trouver, Aurélie, par rapport à ça, c'est justement, bah, et c'est peut-être d'ailleurs une des solutions, peut-être la meilleure solution par rapport à ce genre de personnage, c'est la fuite, quoi, a priori.
Ah, bah, complètement. Alors, soit bah, je vais passer quelques jours chez mon copain, et du coup, on est ensemble, vu que lui, bah, il enchaîne les CDD, etc., et qu'il a un appart en mini-boy au trou du cul du monde, à savoir le fin fond du 91 à la limite de l'heure, à Dourdan.
D'accord.
Ou ravitaillé par les corbeaux là-bas, donc j'ai dit, moi, il est.
D'accord.
Paris, il y a une heure de train, vous êtes juste à la BRF, hein.
D'accord.
Vous êtes à Paris, donc j'ai dit, moi, c'est pas possible. Non, son appart, son minimum, c'est pas possible. Et puis, bah, moi, c'est pas de boulot. Bon, là, j'avais un CDD de 3 mois chez ma mère, qui, elle, bah, pour aller celle m'aider au max, donc elle m'a embauché 3 mois, bah, elle, déjà, ça l'aide. Elle est fleuriste, hein. Ça l'aide, et puis bah moi comme ça du coup bon bah ça faisait le fait de bosser, moi déjà ça me faisait du bien à la tête, ça me faisait sortir de la maison.
Ouais.
Mais sinon oui, c'est arrivé des périodes où je dors chez un copain, une copine, ma soeur.
T'évadais un peu de tout ça, quoi, ouais.
Voilà, plus bah les réseaux sociaux, les séries télé, le tricot, tout ça, enfin tout ce qui me permet de fermer mon esprit et de.
D'accord. J'ai une question qui me revient à l'esprit justement par rapport à cet environnement-là familial, justement, parce qu'on parle de toi, effectivement, mais par rapport à. C'est des sœurs que tu as, je crois que c'est ça. Hein.
Ouais, j'ai 2 sœurs. Ouais.
2 sœurs, comment elles, du coup, ont perçu ce. Est-ce qu'elles savent d'abord ? Est-ce qu'elles ont ouvert les yeux comme toi ou pas ? Ou est-ce qu'elles sont rentrées ? Est-ce qu'elles sont dans un engrenage toujours ou comment ça se passe ?
Non, parce qu'en fait, c'est un privilège qui m'est réservé, ce comportement.
Ouais.
Alors, j'ai une sœur qui a 4 ans de moins que moi. Qui, elle, bon, elle est bipolaire, seulement elle veut pas l'admettre et mon père ne veut pas l'admettre non plus, donc elle va se soigner. Donc c'est pour ça qu'elle nous a pété une pile là, au 24 décembre.
Mmh.
Et mon autre sœur, donc elle a 6 ans de moins que moi, et elle, c'est la chouchoute. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un truc grave ou quoi, ou si il y a besoin d'un truc, tiens Marianne, tu pourrais demander ça à papa, toi il te dira oui.
D'accord.
Voilà, je suis obligée de passer par elle. Mais vraiment pour des trucs, genre organiser bah, le 31, on le fait à la maison avec tous nos copains. Voilà, c'est elle qui a demandé s'il était d'accord.
D'accord.
Parce que moi, c'est. Non, il aurait dit tu me fais pas chier, quoi. J'ai le droit pour mon anniversaire, j'ai le droit à un barbecue l'été, et basta. Enfin voilà, j'en suis à parler de droit alors que j'ai 33 ans.
D'accord. Mais c'est, pas... Si c'est pas simple, hein. C'est vrai qu'après.
Voilà, comme si j'étais une enfant, quoi. C'est vraiment du droit. Par contre, pour ce qui est de m'emmener à l'hôpital pour des rendez-vous médicaux ou quoi, c'est miette. Même si ma plus jeune sœur demande, c'est miette. Hein.
D'accord. Et est-ce que toi, justement, de ton point de vue à toi, maintenant, lorsque tu vois ce genre de, entre guillemets, de cirque, de, fin, d'agissement, quand tu vois ton père agir comme ça par rapport à tes sœurs, qui sont, du coup, c'est toi la sœur aînée, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Est-ce que tu le vois, quand tu le vois agir comme ça, est-ce que tu, toi, tu vois, pas son plan, mais est-ce que tu vois son état d'esprit, un peu ce qu'il tente de faire?
Complètement. Je vois les manipulations qu'il fait pour essayer de monter les unes contre les autres par moment.
Ouais.
Ma sœur qui est bipolaire, bah, de toute façon, elle va comme le vent le port, donc c'est-à-dire dès l'instant où ça l'arrange. Donc pour elle, non, papa est tout à fait normal. C'est moi qui me fais des idées, qui m'invente des films.
D'accord.
Parce que avec moi, tout va bien. Sauf quand il la contrarie. Alors là, quand il la contrarie, mais non, c'est un sale con, nanani, nanana. Et voilà, tant que c'est dans son avantage qu'elle y trouve un intérêt, il n'y a pas de souci.
D'accord. Et donc bah, là aussi, je reviens un peu sur Séraphine encore une fois. Mais là aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais effectivement, pour ce genre de sujet-là, comme je disais tout à l'heure, la seule issue possible, c'est bien souvent la fuite, quoi, lorsqu'on peut le faire.
Oui, la seule.
C'est la seule.
Et enfin, moi, j'ai pris pas mal de renseignements en son temps sur un site qui m'a vraiment été salutaire. Mais c'est vrai que peu importe la situation, que ce soit la famille, que ce soit le boulot, aussi compliqué que ça soit, c'est la seule et unique solution. C'est vraiment ce qu'on appelle le no-contact, donc c'est rien du tout, quoi. C'est fuir le plus loin possible et ne plus jamais se retrouver en contact avec ce genre de personnes, quoi.
C'est vrai que ce sujet-là, en fait, que sont les pervers narcissiques, c'est un sujet qui... Enfin, c'est un avis perso, hein. Et pour moi, encore méconnu, même si on entend beaucoup parler.
Oui, tout à fait.
Et moi, moi, j'ai assez halluciné quand j'ai appris, vous cinq, là, quand j'ai appris qu'en fait, il y avait autant de monde touché, alors qu'en fait, on le sait pas tant que ça, quoi. Il y a des tas de gens qui vivent au dehors, qui sont des PN, et on les laisse vivre, quoi. Et on les laisse détruire des vies, entre guillemets, et voilà, quoi.
Mais disons, ils jouent aussi là-dessus, sur la honte qu'on pourrait tirer à parler.
Oui.
Ils ciblent leurs victimes en sachant bien qu'elles ne parleront pas. Enfin, tu sais, c'est pas évident de dire, bah oui, mon père, c'est un malade et il me fait vivre ça au quotidien.
Ah,
quoi.
C'est
pas facile de dire, mon compagnon est un malade mental, il est violent physiquement et verbalement avec moi. Enfin, on est toujours piégé d'une manière ou d'une autre, de toute façon, avec eux. C'est vraiment... Non, vas-y, dis-moi.
Non, mais la preuve, mon copain, au début, quand je lui racontais, il ne me croyait pas.
Oui, ça m'étonne pas, oui.
Je n'en ai pas voulu, parce que c'est vrai que par moments, ça paraît tellement hallucinant, mais même moi, j'aurais du mal à me croire.
Et est-ce que lui, du coup, tu lui as ouvert les yeux, j'imagine, là-dessus?
Oui. Oui. Et du coup, il a un autre regard, et il a ouvert les yeux aussi, et il a hâte qu'on... de cet enfer, en fait, parce que lui il vient tous les week-ends à la maison, du coup, et donc il voit bien comment ça se passe, et du coup bah il est tendu, quoi.
D'accord.
Du coup, au niveau de notre relation, bah c'est un peu tendu aussi par moment, quoi.
D'accord. Et donc c'est peut-être aussi une solution, ça, si quand on n'a pas moyen de fuite comme ça, d'avoir le courage et de entre guillemets le courage d'avoir trouvé quelqu'un et d'avoir des relations autres que celles de que l'environnement autour du PN, en fait, c'est trouver quelqu'un qui est un peu neutre, ce qui est ton cas,
ouais,
par rapport à ton copain, et ça te permet un petit peu de voir un petit peu autre chose et d'avoir les yeux, ouais, de rester les yeux ouverts, quoi.
C'est ça. Et puis ça me permet aussi de me raccrocher aux branches, hein. Parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. La première, j'avais 16 ans.
D'accord.
Et maintenant, j'en parle facilement. J'en ai parlé avec ma thérapeute. Maintenant, j'en parle facilement. Mais voilà, j'en ai fait plusieurs. La dernière en date, ça doit être il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Parce que c'est un jour où il m'a été pété une pile. Et pour moi, voilà, puisque je le dérange à ce point-là, autant que je disparaisse, quoi.
D'accord.
Donc voilà, maintenant, grâce à mon conjoint, grâce à ma nièce de 2 ans, grâce à ma filleule, c'est vrai que dès que ça va pas ou quoi, je pense à eux et je tiens le coup. Je me dis, allez, c'est bon, t'as des gens qui t'aiment, qui tu comptes. Voilà, c'est ce qui m'aide à me...
À s'accrocher à ces solutions-là qui sont d'ailleurs les meilleures. Hein. De toute façon, c'est vrai que quand il y a ce genre de situation, il faut s'accrocher à ce qu'il y a de meilleur autour de nous, de toute façon. Donc...
C'est ça. Donc c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, hein, je pense. En fait.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à Aurélie, votre avis, voilà, des suggestions?
Mais moi, je me pose quand même une petite question. Mais et finalement, ta maman dans tout ça, parce que à demi-mot, je comprends que tes parents sont séparés, mais vis-à-vis d'elle, comment ça se passait?
Alors, en fait, vis-à-vis d'elle, on en a parlé justement avec ma mère. Mm-hmm. Elle m'a dit que, grosso modo, elle fuyait littéralement le conflit avec mon père. C'est-à-dire, il l'a jamais rabaissé, jamais, etc. Il était tout le temps grincheux, il avait tout le temps la gueule. Et donc, ma mère, pour fuir le conflit et les discussions interminables, parce que mon père, vous lui demandez l'heure, il vous explique le fonctionnement de la montre. Hein. C'est impressionnant. Et pour éviter ce genre de choses, elle disait oui, et voilà.
Ah oui.
Si tu veux. Oui, si tu veux.
D'accord.
Pour pas le contrarier, parce que sinon, elle savait que ça allait être inextricable et que ça allait être une prise de tête. C'est bon. Elle voulait dire.
C'est qu'une espèce d'abandon, finalement, quoi. Entre guillemets.
Oui, c'est ça. C'est ça. Elle dit la meilleure chose que j'ai fait, c'est de l'avoir quitté.
D'accord.
Mais elle l'a pas quitté parce qu'il est pété, elle l'a quitté parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et parce qu'elle supportait plus son caractère à la con, voilà.
D'accord. Mmh. Ok, ouais, c'est clair.
Donc, bien. Donc voilà, donc ma mère, je ne peux pas vivre chez elle parce qu'on m'a déjà dit, va vivre chez ta mère. Oui, mais non. Parce que son compagnon, il a des grands-fils qui se débrouillent et tout, et ma mère et son compagnon veulent être pépère tranquille. Et avec ma mère, on a des caractères qui s'opposent trop et deux générations sont pas faites pour vivre sous le même toit.
D'accord. Ouais. C'est vrai qu'après, effectivement, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que surtout quand on le vit, du coup, actuellement, enfin, en direct, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué, effectivement. Après, comme je te dis, effectivement, après, c'est vrai que d'avoir quelqu'un à ses côtés, c'est la meilleure solution. C'est vrai qu'effectivement, ça te permet ouais, d'ouvrir les yeux au quotidien et de penser un petit peu à autre chose, quoi. C'est clair.
Ouais.
Et t'as ça, poursuivre la thérapie aussi, parce que c'est quand même usant pour l'ego, pour l'estime de soi, etc. Donc, avoir vraiment des espèces de petits repères comme ça pour regonfler son ego, son estime de soi, je pense que c'est aussi important, quoi. Quelqu'un qui dise, bah non, t'es pas nul, bah non, machin, ça me paraît un peu vital, quoi.
C'est clair.
J'ai fait sur la thérapie parce que financièrement, je suis vécue. Parce que la thérapie, elle prend 80 euros de l'heure.
Ouf, ouais.
Ah oui, d'accord.
Alors, elle est top, hein, ça je peux pas dire, mais alors on l'a passé dans ma prise en charge à 100%. Donc comme ça, la Sécu et la Mutuelle me remboursent la moitié. Mmh. Elle a fait un geste, elle m'a diminué les consultes à 70, mais ça revient quand même à 30 euros, je peux cramponner au RSA. À 30 euros, c'est beaucoup.
Ouais, oui, clairement.
C'est clair.
Ouais. Parce que même vivant chez mon père, j'ai quand même des mutuelles à payer, j'ai un téléphone. J'ai deux chats, c'est plutôt aussi que je m'absente jamais trop longtemps de chez mon père, parce que j'ai deux chats. Donc mes sœurs viennent les nourrir, etc. Mais bon, quand même que je m'en occupe de mes bêtes, parce que pareil, je peux pas partir comme ça du jour au lendemain, parce qu'il faut que je puisse les emmener. Sinon, mon père, il va s'en débarrasser.
Ouais.
Donc voilà.
Et c'est compliqué. Et moi, j'ai juste une dernière question en fait qui me revient. Est-ce que justement dans le fait qu'il est tendance justement maintenant à retirer son masque, comme tu dis, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est pas nouveau, mais qui est aussi typique finalement, ce genre de choses, ou pas ?
C'est-à-dire,
est-ce que le fait qu'un PN du coup retire son masque, en fait, se dévoile finalement à des personnes autres que toi ? Comme ton conjoint, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, ça me paraît, enfin, je connais pas, voilà, je connais directement un petit peu ce sujet, mais est-ce que c'est quelque chose qui est pas normal, mais qui est plutôt nouveau, en fait, de retirer son masque en tant que PN, devant quelqu'un d'autre que toi, finalement ?
De ce que j'ai discuté, parce que j'ai une copine qui a vécu pendant 15 ans avec un PN, de ce que j'ai discuté avec elle, d'habitude, non, ils retirent jamais leur masque. Ils le gardent toujours.
D'accord.
C'est la première fois que je vois ça, et c'est vrai que dès qu'il a la confiance avec la personne, qu'il sent qu'il peut peut-être s'en faire un allié ou quoi, il retire son masque. Il l'a fait avec son ex-copine.
C'est
d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle l'a laissé, parce que son caractère, elle pouvait plus, il portait plus. Et voilà, dès qu'il sent qu'il est en confiance, qu'il peut peut-être se faire un allié de la personne, il va relâcher la vigilance.
Enfin, je trouve ça moi perso étonnant, parce que du coup il y a pas de méfiance finalement. Enfin, il se dévoile, quoi, voilà.
Ouais, c'est ça, il se dévoile sans dire que peut-être que c'est pas non. Mais... Mmh. Et puis il sent qu'il a un pouvoir quelque part. Il peut retirer son masque, il a un pouvoir, parce que comme mon copain vient tous les week-ends à la maison, voilà, il peut très bien dire du jour au lendemain, je veux plus te voir chez moi.
D'accord.
Et donc on se verrait beaucoup moins ou moins facilement.
Donc, je pense donc finalement, en fait, il n'y aurait pas de conséquences à ce qu'il le voit tel qu'il est, quoi. En gros.
Voilà.
Oh, ouais, en gros, c'est ça.
Ouais.
Voilà. Il a un pouvoir que... Du coup, oui, je peux me permettre, puisque de toute façon, du jour au lendemain, je peux lui dire qu'à ce point, j'ai pouvoir faire gueule chez moi, et voilà, quoi.
D'accord.
Ouais, c'est encore une démonstration de sa toute-puissance, quoi, en fait. Exactement. Finalement, pourquoi il se cacherait, puisqu'il est tout-puissant chez lui, et qu'il a tout pouvoir et tout contrôle sur toi,
quoi. Se mettre à bord, ouais.
Bon, c'est ça, chez lui, comme tu le dis, parce que moi, je ne suis pas chez moi, je suis chez lui. Je le répète assez souvent, moi, je n'ai pas de chez moi. C'est difficile de dire, ok, je n'ai pas de chez moi, pas mon moi. Tu es chez moi, tu vis chez moi parce que je veux bien, parce que je ne t'ai pas encore mis dehors, et tu es chez moi. Donc, je n'ai pas de chez moi. C'est dur. Là, les derniers événements en date, alors bon, comme j'ai vécu deux fois en appartement, tout ça, donc j'ai une grosse partie de ma vaisselle, mes cartons, tout ça, qui sont chez ma mère. Et le reste, c'est dans ma chambre de 9 mètres carrés, donc autant vous dire que c'est des roues, littéralement. Il y a des cartons, il y en a partout. Et comme en plus je suis une grande passionnée, c'est-à-dire que, bah, par exemple, moi, quand j'ai commencé le tricot, j'ai acheté plein de trucs en rapport avec le tricot. J'ai commencé la broderie, j'ai acheté des milliards de trucs en rapport avec la broderie. Voilà, moi, quand je me lance dans une passion, si vous voulez, j'achète tout le matos, quoi.
Une grande passionnée, quoi.
Voilà, donc du coup, ça prend énormément de place. Donc, c'est vrai que dans ma chambre, c'est un petit Bagdad. Et donc, c'est du harcèlement pour que je range ma chambre, sinon il va louer une benne pour tout bazarder par la fenêtre dans ma chambre. Donc ben voilà, on peut pas pousser les murs, hein. 9 mètres carrés mansardés, c'est 9 mètres carrés, hein. Je peux pas pousser les murs. Et donc, il m'a fait un coup, il m'a demandé, je veux que tu choisis deux paires de chaussures, dans ton tiroir à chaussures et, tu les jettes. Pourquoi? Alors, bon, je suis un tour dans mon tiroir, je donne deux paires neuves à une de mes sœurs. Je dis, bah, tiens, moi, elles me font mal au pied, comme ça c'est l'occasion, je te les donne. Ah, non, ça compte pas. Je veux que tu me donnes deux paires de chaussures et que tu les jettes. Je dis, non, mais si, j'en ai marre du bordel, t'as 40 000 paires de chaussures, bah oui, en même temps, je suis une fille. c'est pas possible, voilà. Donc, il a fallu que je sacrifie deux paires de chaussures. Bon. J'ai pris les plus pourris, parce que moi, les grolles, je les use jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'il y ait des trous, qu'il y ait plus de semelles, etc. Donc, j'ai pris les plus pourris, je lui ai filé, mais ça m'a fait bizarre. Et j'ai dû faire pareil avec mes fringues, j'ai dû faire un prix de fou. Je me suis dit, mais je suis une fille, j'ai une microscopique penderie. Eh, mais non, je veux pas le savoir, t'as trop de fringues, trois t-shirts et deux pantalons, ça suffit. Mais t'as pas fait ton truc. Bah, ça, je suis une fille, c'est des fringues. Mais non, j'ai dû me séparer de plein de choses. Pour lui faire plaisir, parce que c'était soit tu choisis toi-même, soit c'est moi qui me débrouille. Comment vous dire que je voulais pas qu'il se ruse sur mes chaussures à 150 boules, ni Donc bon, bah j'ai dû... voilà.
Ouais, c'est du chantage, quoi.
Ah oui, complètement. Hein. Donc voilà, c'est des aberrations, comme ça. Il a des pulsions, et chaque année à la même période, aux alentours de novembre. Une année, ça y a pris, comme je ne lui verse pas de loyer parce que j'habite chez lui, je vais dire en même temps mon petit pote de ce que je gagne, je sais pas trop ce que je pourrais verser, et ben elle m'a coupé l'électricité dans ma chambre pendant une semaine.
D'accord.
Donc plus d'ordinateur, fallait que je charge mon téléphone dans la cuisine, parce que comme je suis sur le même réseau que la salle de bain, bah pareil, il n'y avait plus dans la salle de bain, donc il s'est privé lui-même, mais bon, c'est pas grave. Donc je pouvais pas charger dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, plus de sèche-cheveux, plus de chauffage. Pas même semaine.
Donc par tous les moyens, dès qu'il a la main mise un petit peu sur toi, ouais, dès qu'il peut faire quelque chose, il le fait, quoi. Enfin...
C'est ça, en espérant que ça me fera partir, qu'à un moment je vais craquer, que je vais partir. C'est ça, mais je vais pas les vivre dans la carte où il casse ou un pont. Il est beau, lui.
Bon, on est tous avec toi, en tout cas.
Oui,
c'est gentil.
Ah
mon humour quand même, hein, maintenant que je sais ce qu'il en est, j'ai pris beaucoup de recul, donc j'ai reste positive. Mais des fois, j'arrive à me taper la tête dans les murs, ça c'est sûr. Puis, comme le Crohn, la maladie de Crohn, tout ce qui est stress et énervement, ça déclenche des crises, je peux vous dire que je suis jamais tranquille, hein.
Et est-ce qu'à ton avis, c'est lié à ton, ou pas, ce genre de choses?
Mes crises actuelles, oui.
D'accord.
La maladie, non, parce qu'elle s'est déclenchée, j'avais 20 ans, mes parents étaient divorcés depuis 3 ans, ça se passait très bien avec mon père.
D'accord.
Mais mes crises actuelles, le fait que ça se calme pas, que j'ai été opérée il y a 2 ans, et que bah, finalement ça ne servait à rien, c'est tout pareil. Ah bah c'est récat, de toute façon dès qu'on s'embrouille avec mon père, hop, j'ai mal au bide et je suis malade. ça marche à tous les coups, hein, c'est une science exacte. Donc bon, des coïncidences ok, mais là c'est gros quand même.
Ok, eh bien écoute, on est tous avec toi comme je te le dis.
Je veux juste rebondir sur un truc. À un moment donné, tu as dit que tu pensais que ton père voulait te pousser à partir. Mais je pense, dans la mentalité d'un pervers narcissique, je pense surtout qu'il a très peur que tu partes en réalité. Mm-hmm. Parce que un pervers, il existe avant tout dans les yeux de sa victime. C'est ce qui fait qu'il a une importance, c'est ce qui fait qu'il a le sentiment d'exister. Et si jamais demain tu pars, par tête, tout d'un coup, il perdrait un miroir, en fait. Enfin, pour lui, une victime, c'est un miroir. Et en fait, je pense que ça l'angoisse que tu partes. Et si jamais, réellement, tu étais sur le point de partir, je suis prête à mettre ma main à couper, que tout d'un coup, il serait tout mielleux, tout gentil pendant une période pour t'endormir avant de recommencer.
Mmh. Ah bah ça, c'est même sûr et certain. Là, il m'aidera au déménagement, il fera des étagères, des placards, tout ce que je veux dans l'appart, et tout. La joie, il est adorable depuis que ma sœur a pété une pile. J'attends le retour du bâton. Pareil, chaque année, il y a la trêve Roland-Garros. C'est-à-dire, comme on est passionnés tous les deux, pendant les 15 jours de Roland-Garros, c'est la trêve, on est les meilleurs amis du monde. Après Roland-Garros, il y a le retour du bâton, hein, avec la TVA derrière. Donc là, il est adorable. Parce que quand je vais me prendre le retour du bâton dans les dents, ça va faire mal. Donc, je reste méfiante. Parce qu'avant, du coup, il mettait en confiance. Donc, c'est bon, une fois, deux fois, trois fois, il y a des pigeons. Donc, maintenant, je sais. Et là, du coup, je reste méfiante. C'est trop beau pour être vrai, quoi.
Je pense que ça répond un peu à la question peut-être de certaines personnes qui se demandent pourquoi on reste, en fait. Parce que c'est une question qui revient souvent quand on est en couple avec un pervers narcissique, par exemple. C'est pourquoi on reste, bon, en dehors, par exemple, de tes raisons qui sont de bonnes raisons, des raisons financières, on peut rien y faire. Mais c'est parce qu'il y a ces hauts et ces bas. C'est que dès qu'on est prêt à partir, il va dire quelque chose, il va actionner justement des mécanismes qui vont faire qu'on va rester en se disant « il a changé ». Et en fait, il nous tient avec ça. Je pense que toutes les personnes qui ont été de près ou de loin en contact avec un PN ont remarqué ce mécanisme.
Oui.
Bon, si tout le monde est d'accord, on va passer à Maëva. Est-ce que tu m'entends ?
Oui, toujours, oui.
Ok. Donc, Spike, si tu souhaites, Aurélie, du coup, si on souhaite entrecouper les diverses informations entre les différents sujets, il n'y a pas de souci. Donc, Maëva, du coup, alors, Maëva, c'est quelque chose de encore complètement différent, là, c'est ça, hein.
Oui, tout à fait.
Vas-y, je te laisse.
Quand j'avais 10 ans, ma maman s'est remariée avec un pervers narcissique, justement, et elle est restée avec lui jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Donc, ma mère... avec 4 enfants, donc ma grande sœur, moi et mes 2 petits frères, et on s'est retrouvés jetés là-dedans, sans être préparés du tout, du coup. Une période assez difficile. Après, il y a tellement de choses, et puis ça fait quelques années déjà, bah, ça fait 10 ans maintenant. Donc le mieux, ce serait que vous posiez des questions, parce que je ne peux pas résumer 7 ans.
Comme tu disais, en fait, donc tu as réussi à lui tenir tête à un moment donné.
Si j'ai bien compris. J'ai tenté tout ce que je pouvais parce que il a réussi à faire partir ma sœur. En fait, elle est restée 2 ans à la maison et après, à force de lui dire qu'elle était nulle et que de toute manière elle devrait retourner vivre chez son père, bah, c'est ce qu'elle a fait. Et le problème, c'est que une fois que ma sœur est partie, bah, c'est moi qui ai tout pris dans la tronche, en fait. Il a essayé de me pousser à partir, sauf que il n'a pas vu qu'il avait affaire à une grande têtue. Et je voulais aussi protéger mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi, et je voulais pas que lui se retrouve à tout prendre dans la tronche, quoi. Le seul qui était à peu près épargné, c'était mon petit frère qui avait 3 ans au moment où il est arrivé, et qui forcément était le chouchou, c'était le petit Romain, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Et comment ça se traduisait, du coup, par rapport à cet homme-là, du coup, ça se traduisait comment, de quelle manière ?
Bah, on n'avait pas accès à notre mère, en fait.
D'accord.
On pouvait jamais lui parler sans qu'il ramène sa fraise, sans que « Ah, laissez votre mère, elle est fatiguée », ou « Laissez votre mère », tout le temps « Laissez votre mère », on pouvait jamais lui parler. Elle non plus, d'ailleurs, parce que, par exemple, si on se faisait une bêtise, bon, on était des enfants, donc forcément, on en faisait. Si elle venait nous gronder... Il revenait derrière et il en mettait une couche encore pire. Enfin, c'était terrible. Et par rapport, après, je peux pas parler par rapport à mes frères, mais je sais que par rapport à moi, j'étais toujours la plus nulle, la plus grosse, la plus conne.
D'accord.
Tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Je me suis beaucoup reconnue dans le témoignage d'Aurélie, justement, parce que les dévalorisations, c'était tout le temps, quoi.
Oui, c'est en permanence, quoi, souvent. Oui,
ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même à la fin, pendant très longtemps, à la fin, j'avais plus le droit de sortir de ma chambre. J'avais le droit de sortir de ma chambre pour me laver, à la rigueur, et pour manger. C'est tout. Bon, pour aller au collège, forcément, puisque bah, ça, pas le choix. Mais pas grand-chose d'autre. J'avais pas le droit de lire non plus quand j'étais à la maison.
Ouais.
Ce qui fait que du coup, j'ai dévoré tout le CDI, puisque j'avais pas le droit, je le faisais en cachette, évidemment.
D'accord, ouais.
J'ai dit, je suis une grande têtue. Du coup, j'ai fait le contraire. J'en ai même ramené pour les lire à mes frères, d'ailleurs, histoire de faire chier bien comme il faut.
D'accord. Et du coup, alors là aussi, je reviens sur ma première question, mais comment tu as, toi, avec le temps, comment est-ce que tu as découvert que c'était justement un personnage de ce genre-là, justement ? Est-ce que...
Bah, je l'ai découvert après, en fait. C'est ma sœur qui m'a envoyé un document, elle me fait « ça te fait pas penser à lui ?» Ah bah si, carrément, il rentre dans toutes les cases, tout colle. Mais on pensait pas à ça, on pensait juste que c'était un type méchant et totalement... Bah, méchant, quoi.
Et
effectivement, il était mielleux comme pas possible des fois. Ouais, alors donc, on se demandait ce qui se passait.
Donc là aussi, des phases, ouais, comme tu dis, un peu mielleux, voilà.
Ah oui.
Pour l'arranger lui.
Ah oui, tout à fait. Je me rappelle une fois, parce que oui, il faut savoir aussi qu'il est arrivé à 10 ans, donc, quand moi j'avais 10 ans. Donc avant cette période-là, ma mère ne faisait pas faire la vaisselle. Enfin, on était des enfants, quoi.
D'accord.
Quand il est arrivé, on faisait la vaisselle à chaque repas. Après chaque vaisselle, on devait passer la serpillière, on faisait les lessives, le ménage, le repassage, tout ça.
D'accord, ouais.
Donc, bonjour, c'est moi, Cosette.
C'est pas mon professeur Cendrillon, justement, quand le papa s'est remarié avec la marâtre, la fille est devenue la servante, et ouais, ça m'évoquait tout à fait ça.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Cendrillon. C'était sympa. Et donc, voilà, une fois, bah là, je retourne sur le truc mielleux. Une fois, donc, ils avaient acheté une vieille maison et ils ont fait détruire la grange, mais il restait de la paille. Et le seul problème, c'est qu'ils voulaient installer une cuve pour mettre du gaz. Donc, c'était à moi de le faire. Donc, je nettoie et tout, parce que bah, je devais le faire. Et j'ai réussi à le faire en une matinée. Et là, il a été adorable. Il m'a même acheté des livres, des trucs comme ça. J'en revenais pas, j'étais trop contente. Et je me suis dit, ça y est, il a enfin remarqué que j'étais de bonne volonté. En vrai, je suis pas juste une grosse feignasse, comme il passe son temps à le dire.
D'accord.
Bah, ça a duré une soirée, quoi.
Et puis demain, c'était reparti. Ouais, le lendemain, c'était reparti pour...
Voilà.
D'accord.
Pour tout le reste.
Et par rapport à ta mère, du coup, je pensais à ça. Est-ce que, du coup, est-ce qu'elle vous... comment dire ? Vous montrez quelques signes par rapport à ça, par rapport à cette relation. Est-ce qu'elle voyait quelque chose justement ? Comment ça
non,
se passait ?
Non, elle s'en rendait pas compte.
Elle s'en rendait pas compte, oui.
Non, elle s'en rendait pas compte, c'est-à-dire que maintenant, quand on en parle, elle découvre encore beaucoup de choses.
Ah oui.
Donc, plus on lui raconte des choses, parce que même si ça fait 10 ans, c'est un sujet qu'on n'a toujours pas épuisé. Quand on est en famille, on finit immanquablement par parler de lui. Et oui, elle continue à découvrir des choses quand elle a décidé de le quitter. On s'est retrouvés tous ensemble. Elle est tombée des nues en apprenant tout ce qui nous faisait vivre.
D'accord.
Elle avait remarqué que oui, il l'étouffait. Oui, il l'avait éloignée de toute sa famille, de ses enfants, de ses amis. Il s'appropriait des idées à elle pour les ressortir pour sa gloire à lui. Qu'il retournait tout le monde comme il voulait. Ça, elle s'en était rendue compte, mais elle ne s'était pas rendue compte à quel point c'était arrivé loin dans sa propre famille, en fait. Elle ne s'était pas rendue compte que ça nous avait touché autant.
D'accord. Et il y a aussi, je crois, hein, vous me direz, venez si je me plante, hein, surtout, mais le fait de s'approprier justement des faits comme ça par rapport à son conjoint ou une autre personne, c'est quelque chose qui est aussi typique de ce genre de perso.
Nage. Bah, sur mon expérience, oui.
Ouais, Séraphine, vas-y.
C'est s'approprier soit des idées, des comportements, des qualités même. Ça, c'est un truc assez fou, il vous admire pour telle ou telle qualité, ben lui, il l'a, mais encore mieux, il est encore meilleur, il est encore, c'est le pro de cette qualité-là, quoi. Et c'est assez, c'est assez interpellant de l'entendre dans cette situation-là aussi, c'est que c'est un mec, il vous pompe absolument tout ce que vous avez. Tout ce qu'il trouve intéressant chez vous, il le prend, mais vraiment à son profit, quoi.
Lui, il se trompe jamais, il fait jamais tout. C'est vrai.
Bah, il est parfait de toute façon.
Ouais, c'est ça.
C'est pas se tromper.
Il y a un truc que je trouve étonnant quand même, c'est de se dire que ce genre de perso, en fait, socialement parlant, a besoin de quelqu'un pour se sentir là, enfin présent.
Ah, mais c'est des parasites. C'est clair que c'est des parasites. Ils s'accrochent à une proie et tant qu'ils l'ont pas sucé jusqu'à la moelle, ils la lâchent pas.
Et bien, ce qui est étonnant, c'est que d'un autre côté, tu vois, il détruit cette vie-là, en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bah,
c'est le principe d'un parasite, hein.
Ouais, c'est vrai. Effectivement.
Non, mais c'est vraiment ça, c'est aller pomper toute l'énergie qu'il va pouvoir pomper chez quelqu'un, et une fois qu'il est rassasié et que l'autre en est du coup dépourvu, il l'abandonne, il la jette comme il l'a pris, et ensuite il va aller chez quelqu'un d'autre, et chez quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Non, c'est des personnes qui peuvent pas vivre par eux-mêmes, parce que finalement ils sont complètement creux, quoi. Enfin, c'est... Sans un espèce de faire valoir, si tu veux, ça ne... ils n'ont pas de vie propre, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de conversation autre que celle que toi tu leur fournis, que toi tu leur donnes, etc. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont vides comme des coquilles.
C'est ça, en fait, ils vivent par l'intermédiaire de quelqu'un, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et qui prennent peur s'ils voient que quelqu'un pourrait leur être supérieur ou quoi.
Ah ouais, ouais.
Quand je lui explique pour ton téléphone, mais non, ça faut que tu fasses comme ça. Oui, non, mais je sais.
Ouais.
Et tout de suite, les énervements, etc.
Ce sont des gens que tu ne peux pas prendre en défaut, quoi. Jamais. Jamais. Et si, non. Par malheur, tu arrivais à mettre le doigt sur quelque chose qui coincerait un peu, ils auront toujours 12 000 explications pour t'expliquer que, ben non, ils avaient bien raison, mais que toi, tu t'es trompé. Mmh. Ou alors, si c'est aller des critiques de quelqu'un d'autre, si, mais non, mais l'écoute pas, elle est folle, elle est dingue, elle dit n'importe quoi. Parce que, ce qui est complètement dingue, c'est que, pour le PN, tous les autres gens autour d'eux qui pourraient le critiquer sont des PN, sont des jaloux, sont des gens qui sont trop narcissiques pour reconnaître qu'eux sont les meilleurs. C'est du déni, mais à un point... Tu peux même pas imaginer.
C'est de la manipulation, ouais.
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 Et par rapport à Maïva, je reviens un petit peu sur Maïva. Avec le temps, du coup, j'imagine que, du coup, comme tu disais, vous refaites un petit peu l'histoire. Et vous refaites le film, entre guillemets, quoi.
Ah oui, on se refait le film et puis on regarde. Enfin, c'est bizarre parce que quand on le vivait, ça nous paraissait pas forcément bizarre. Enfin, moi, je sais que bah, forcément, j'ai eu une adolescence pourrie. J'étais malheureuse, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. C'est maintenant que je me rends compte que, mon Dieu, j'ai eu une vie de merde. Terrible.
Ouais.
Et mais c'est vrai que sur le coup, on s'en rend pas forcément compte. C'est après, en reparlant entre nous, qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, en fait. Comment on a fait pour supporter ça pendant toutes ces années?
Mais en fait, t'as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant au tout début où t'as commencé à raconter ton histoire. C'est que vous étiez tous isolés, en fait, tous dans des cases. Donc, à partir de ce moment-là, t'avais pas moyen, en fait, de découvrir ce qui se passait, quoi. T'étais tellement... Puis le fait de te laisser dans ta chambre et tout, c'était pour pas avoir non plus de regard extérieur qui aurait pu avertir sur « Oh là, attention, la situation dégénère et elle n'est pas normale, quoi. »
Bah ouais. J'ai commencé à ouvrir les yeux avant, en fait. Mmh. Et je crois que c'est à partir du moment où j'ai commencé à ouvrir les yeux que ma mère a commencé à ouvrir les siens. Je me souviens d'un soir... on était à table, et c'est la première fois que je l'ai tenu tête ouvertement. On était à table, je venais de passer la journée dans ma chambre encore une fois, et je demande à ma mère de me passer le piment. Et là, il me regarde, il fait « De toute façon, t'es assez grosse, t'as pas besoin de piment. » Excuse-moi.
Okay.
Et là, je le regarde, je pose mon couteau, je me lève, je dis « Bonne nuit », et je vais me coucher. Et j'ai eu la trouille de ma vie, j'ai eu peur que ma mère me rappelle et me dise « Tu t'assis à table et tu restes là. » Parce que ça aurait été lui donner raison au final, à lui. Et elle m'a pas rattrapée. Et je crois que là, ça a été le début de la débandade pour lui et qu'il a vu qu'il avait perdu. Et ça a été de pire en pire à partir de ce moment-là, mais quelques mois plus tard, ma mère a décidé de partir.
Et donc, c'est il y a un déclic, un petit peu.
Ouais, bah oui, au final. Bah, déjà, m'enfermer dans ma chambre, ma mère trouvait pas ça normal, déjà de base. Mmh. Mais avec ça, enfin, je pense que quand elle a vu que ses enfants aussi réagissaient, elle s'est dit c'est bon, je suis pas folle. Parce que lui, après, par contre, quand ma mère est partie, il a fait courir le bruit qu'elle était folle, qu'elle était malade, tout ce qu'on veut, mais lui, il n'avait pas tort. C'est elle qui était en détresse, forcément.
D'accord. Du coup, c'est qu'avec le temps, du coup, avec le temps, tout, vous faites des films, évidemment, et vous revenez sur ces différents souvenirs-là, pas forcément joyeux, évidemment.
Oui, mais des fois, on se marre bien, quand même. Parce que, il a été militaire. Mais on sait pas vraiment à quel grade, parce que pour lui, c'était un très haut gradé très rapidement, et Et ils faisaient des trucs de fou, quoi. C'était waouh. Et puis, en fait, rétrospectivement, on se dit, non, c'est pas possible, en fait. Ils nous racontaient des histoires totalement démentielles. Et puis, c'était pas forcément les mêmes, en plus, tout le temps. Genre, il y avait des détails qui variaient, des choses comme ça. Donc, on se dit, mais c'était en plus un gros mytho.
Oui, c'est étrange.
Donc, des fois, on se marre bien.
Et le gros avantage que vous aviez, c'est qu'avec tes frères et toi, donc, vous étiez comme un bloc, quoi, finalement. Et,
Oui. Finalement, ma mère nous a toujours inculqué ça, c'est-à-dire qu'entre frères et sœurs, on se soutient. Et je pense que c'est quelque part ce qui nous a sauvés, en tout cas mes frères et moi, du plus gros en fait, parce qu'au final, on s'est beaucoup soutenus. J'ai essayé de protéger mes frères comme j'ai pu, mais bon, après j'étais jeune, ils en ont quand même pris, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis restée à la maison, tellement j'avais peur pour eux, et je pense que c'est déjà énorme quand même pour une gamine.
Est-ce que tu sens qu'il y a du coup maintenant il y a des entre guillemets des séquelles par rapport à ce qui s'est passé?
Ah oui, ça c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr, bah ma timidité par exemple.
D'accord.
Ça voilà. Se voit pas du tout.
Non, ça se voit pas du tout, non.
Non, mais ça tout le monde me le dit, mais en fait c'est pas vrai. Je le cache.
D'accord.
Mais voilà, le manque de confiance en soi, mine de rien, j'ai pris énormément de poids. À cause de ça.
D'accord.
Parce que quand t'entends grosse vache toute la journée, bah finalement, bah tu le deviens.
Oui.
C'est immanquable au final. Le seul truc qu'il a pas réussi à m'enlever, c'est de me dire t'es con, tu réussiras jamais à rien. Au final, je sais que je suis pas si con que ça. C'est déjà pas mal. Non, il y a quand même de séquelles. La culpabilité aussi, parce que je me suis souvent dit que j'aurais peut-être pu faire plus pour mes frères et pour ma mère. Ouais. Même si ma mère me dit arrête, ta place elle était pas là, t'étais qu'une gamine. Bah oui, mais. C'est quand même difficile de se dire j'ai pas pu faire plus alors que j'aurais tellement voulu.
Et bon, c'est vrai que t'étais déjà bien jeune à l'époque quand même. Donc d'avoir ouvert les yeux comme ça et puis d'avoir réagi, c'est quand même déjà fort.
C'est ce que je me dis. Je garde quand même une grande fierté de ce soir-là et de quelques autres moments. Je lui ai dit un jour d'ailleurs, c'était quelques temps après cet épisode-là, il faut savoir qu'il a commencé des travaux dans la maison où on habitait et il les a jamais terminés. Parce qu'il commençait tout, il finissait jamais rien. Et j'étais en train de me laver les dents dans la salle de bain tranquillement, salle de bain qui ne fermait qu'avec un rideau, et il arrive pour prendre de l'eau chaude, parce qu'on n'avait pas l'eau chaude dans la cuisine, il me pousse et il me dit « dégage de là, parasite ». Je le regarde, je lui fais « c'est toi le parasite ».
D'accord.
Je me suis mangé la plus grosse mandale de toute ma vie. En plus, il y avait un mur à côté, c'était sympa. Mais j'ai rien dit. Parce que j'étais quand même vachement fière de mon coup, là.
Ouais, t'avais répliqué, quoi.
Ah ouais, j'avais répliqué, et puis je lui avais dit... Enfin, le mot, en plus, c'était vraiment ce que je ressentais au fond de moi, quoi. C'était un gros parasite, le mec.
Donc, et ta mère a dit qu'il levait la main sur toi ?
Non, ma mère a jamais rien dit, non. Parce que pour elle, dans son éducation, c'était pas non plus... grave. Elle a été élevée à La Réunion. C'est l'équipe... Enfin, là où elle a été élevée, dans l'esprit où elle a été élevée, c'est un peu le 1900 de France, quoi. Donc pour elle, une claque, une fessée, c'est rien du tout.
Oui, mais là, c'est ça que quelqu'un qui n'est pas ton père.
Oui, mais bon, on était jeunes, on était des enfants, donc je pense pas que pour elle, c'était choquant.
D'accord.
Parce que pour elle, elle est mariée avec un homme, bah il remplace un peu notre père, quoi. Je pense, après...
Okay.
Après, moi, il m'a collé que deux ou trois claques, mais le problème, c'est qu'il y avait toujours un mur à côté. C'est chiant.
Et je repense du coup à ta sœur, du coup, qui est partie bien avant, c'est ça ?
Oui. Oui, elle est partie quand elle avait 15 ans.
Tu disais qu'en fait, là, pour le coup, les relations étaient bien différentes, parce que du coup, elle a également dû vivre des choses que toi, tu n'as pas vécues.
Et voilà, c'est ça.
C'est ça ?
Du coup, on est quand même pas mal en décalage, parce que elle pense qu'elle a eu l'enfance la plus difficile de toute la vie, l'adolescence la plus difficile de toutes, et moi pas, justement, puisque j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et forcément, après... on se comprend pas forcément tout le temps et on n'a pas non plus vécu dans le même milieu. Elle a vécu dans la famille de mon père où tout le monde est très famille et tout. Alors que nous, on était coupés du monde. Donc pour nous, la famille, c'est les frères et sœurs, la mère et puis c'est tout, quoi.
D'accord. Et avec le temps, là, pour le coup, comment dire, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à ce temps-là qui vient de passer, par rapport à cette relation-là?
Elle en a connu une partie un petit peu. Donc elle sait à peu près ce qu'on a vécu, mais elle n'a pas vécu le plus dur. Donc après, elle reste quand même... elle en apprend énormément aussi quand on discute.
D'accord.
Et puis ça lui fait mal de se dire que nous, on a vécu tout ça tous ensemble.
D'accord.
Et qu'elle, au final, elle était loin, elle n'a pas pu nous aider. Et puis elle se sent un peu rejetée au final, j'ai l'impression, de tout ça en fait.
D'accord.
Parce que même si c'était pas rose tout le temps, genre jamais, elle était quand même exclue du groupe en fait. Et je pense que ça la blesse quand même pas mal.
Un petit peu, ouais. Ok, très bien. bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'avis, on va passer du coup... on va tenter de faire le début de l'histoire de Sonia. Ça sent qu'il y a beaucoup à dire, si j'ai bien compris aussi. Et on va faire une petite pause musicale pour revenir après sur la deuxième partie par rapport à Sonia à ce moment-là. Sonia, t'es là ?
Oui, je suis là.
Ok. À toi la parole.
Alors bon, alors moi j'aime bien cumuler. Du coup, j'ai connu deux PN, mon père et mon ex. Et on va commencer comme on est dans la lignée des pères par lui. Moi, j'ai pas trop subi mon père, on va dire. Il était souvent absent, je l'ai jamais aimé. Et j'ai toujours détesté en fait. Je voyais un peu son jeu et quand mon père a quitté ma mère à 17 ans, pour moi c'était une vraie libération. Mais par contre, ma sœur, elle, a été beaucoup plus sous son emprise. Mais bon, voilà, c'est pas... C'est comme... Il me descendait pas, mais c'était cette violence toujours, et toujours être de bonne humeur, sinon il cassait, sinon il tapait, des choses comme ça. Et c'est surtout au niveau quand mon père a quitté ma mère pour le divorce, que là, il a commencé à avoir une attitude de père, on va dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, il avait de l'intérêt pour moi. Tout d'un coup, il a voulu me voir, il a voulu prendre soin de moi, m'inviter au restaurant, m'emmener dans faire des balades, pour pouvoir, à côté, la faire à l'envers à ma mère, en gros. Donc, ça, c'est mon père. Aujourd'hui, ça va faire 7 ans que je lui parle plus, donc ça va beaucoup mieux. Mais j'ai pas trop eu de séquelles par rapport à lui. Par contre, j'ai reproduit le schéma de ma mère en sortant avec un PN. Voilà, voilà. Et du coup, je sais que c'était par rapport à deux choses. Non seulement j'avais cette impression d'être brisée par certaines choses qui me sont arrivées dans la vie, et ce PN, mon ex, arrivait à me faire comprendre. Il me disait que j'étais parfaite telle que j'étais, que même si je me sentais brisée ou imparfaite, j'étais parfaite à ses yeux. J'étais... voilà, j'étais vraiment une personne extraordinaire. Et ensuite, donc, le fait que je reproduisais le schéma de ma mère. Je pense que toutes les femmes, un jour ou l'autre, reproduisent ce schéma en cherchant quelqu'un qui ressemble à son père.
Et ça, c'était combien de temps ? Excuse-moi, c'était combien de temps après l'épisode de ton père ? C'était.
Oula, ça faisait. C'était il y a 4 ans, je crois.
D'accord, il y a un petit laps de temps entre les deux, je veux dire, d'accord.
Voilà, c'est ça. Donc, mon père, j'ai arrêté de le voir à 17 ans et lui, j'étais avec. C'était 2 ans après, à 19 ans.
D'accord.
J'ai commencé à être avec mon ex.
Ok.
Et je suis restée presque 2 ans avec lui. Donc, comme la plupart des personnes ayant été victimes de PN, au début, c'était la folie, c'était on va dire la lune de miel, quoi. Tout allait bien, tout était beau, il y avait des petits papillons et des petites étoiles partout. Il avait cette spontanéité que je cherchais justement, cette façon de vivre et de pas se restreindre, de pas être là et se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Il voulait faire quelque chose, il le faisait. Et ça m'a vraiment plu. Et je l'ai rencontré en ligne, en fait. Et il est venu en France, parce qu'il est écossais. Il est venu en France une semaine chez moi, alors que je connaissais depuis 2-3 ans. Et on a passé une semaine de folie. Et 2 jours avant, il me dit « Viens avec moi en Écosse ». Moi, je dis « Bon, ok, je viens avec toi en Écosse ». Et je l'ai suivi jusqu'en Écosse, du coup. Et j'ai habité là-bas pendant 1 an et 8 mois. Et à partir du moment où j'étais là-bas, c'est là que ça a commencé. Il a commencé ça, au bout de 2 semaines. Hein, « Ne fais pas ça, tu parles à qui ?» Il prenait mon PC et il regardait toutes les conversations avec qui je parlais. Et il prenait mon téléphone, parce qu'il est informaticien, il prenait mon téléphone, il arrivait à retrouver les conversations supprimées, les photos supprimées, tout, tout. Et il me faisait un interrogatoire, et je pleurais, et continuait. Bref.
D'accord.
Et c'était assez doux, on va dire. Et ça a été comme ça pendant un an. Et tous les mois, je voulais le quitter. Tous les mois, j'essayais de le quitter. J'en pouvais plus. Et il me dit, il me disait, mais non, t'es la femme de ma vie, je t'aime, tu peux pas partir. Non, non. Enfin, bref, il m'a fait ses déclarations d'amour infinies. Et jusqu'à, c'est à peu près comme ça, jusqu'à un an de notre relation, où là, il a commencé à être violent physiquement, on va dire. Parce qu'en plus, c'était un alcoolique qui avait beaucoup de problèmes. C'était que j'avais dit Lucille, j'avais l'âme de Jésus-Christ. Et je voulais le sauver parce qu'il n'avait pas de chance dans la vie. Et moi, je voulais lui donner sa chance parce que le pauvre, il avait une famille où c'était difficile. Son père le battait, il lui a cassé 7 fois le nez. Enfin, plein de choses. Et moi, je me suis dit, oh, le pauvre petit oiseau, il faut que je le recueille, que je l'aime.
Merci, Sonia.
Vous disiez quelque chose?
Non, je disais mère Sonia, mère Teresa, mère Sonia, quoi.
C'est ça. Mais ça, c'est le problème de l'hyper-empathie hein, qu'on a. Et du coup, voilà, je l'ai aidé pour ses dettes. J'ai dû dépenser 13 000 euros pour lui. Juste pour ses dettes. Hein.
Et, ah, mais ma mère a fait la même chose avec le sien.
Oui, voilà. Ben, mon père a fait 200 000 euros de dettes à ma mère. Donc, j'ai choisi le même profil. Voilà. Et ça continue encore aujourd'hui. Mais enfin... Et du coup, au bout d'un an, c'est là qu'il a commencé à être plus violent. Alors, je ne me souviens pas de la dispute même, mais je me souviens que ça a commencé par le fait que lui s'est enfermé dans la chambre avec le loquet, et j'arrivais pas à ouvrir la porte, je tapais, et puis du coup, j'ai commencé à balancer des choses sur la porte. Et j'ai décidé que s'il pouvait lui avoir son intimité, j'aurais la mienne, et je me suis mise dans une pièce et j'ai fermé. Sauf qu'il n'a pas aimé, et du coup, il a cassé la porte. Donc, je suis allée dans une autre pièce, je refermais, il a recassé la porte, et c'est là qu'il m'a restreint, quoi. Il a mis ses bras autour de moi, il voulait plus me laisser bouger parce qu'il disait que j'étais folle, hystérique, et du coup, je me suis enfuie. Et ça a continué comme ça, il revenait bourré, il me plaquait contre le mur en tapant du poing à côté en me disant qu'il voulait me tuer, ou il revenait, il me disait je t'aime, puis après, il me disait j'ai envie de te taper, j'ai envie de te frapper, j'ai envie de te tuer, puis après à nouveau je t'aime, enfin ça en l'espace d'une demi-heure, hein. Et après il me demandait de faire un sandwich à 4h du matin. Mais, voilà, et... Mais ensuite, ça a continué comme ça jusqu'à... au jour où je ne vraiment plus, donc j'ai l'impression qu'il allait vraiment me tuer à force. Je me disais, Sonia, si tu continues, tu vas finir comme ces femmes battues et tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Et j'avais tout le temps ça en tête.
Attraction,
Oui.
Attraction, répulsion en permanence, quoi.
C'est ça. Mais il n'y avait plus trop d'attraction à la fin. Enfin, si, tout d'un coup, il décidait de m'acheter quelque chose, genre des crèmes pour prendre soin de moi, et alors il me massait ou des trucs comme ça. Mais... Après, ça redevenait le pire connard au monde. Et ensuite, ce qui m'a fait partir, donc j'ai l'impression vraiment qu'il allait me tuer physique. Enfin, il m'éreintait psychologiquement, physiquement, le stress, la tension, parler aux gens, le fait de ne plus avoir personne. Je pouvais même plus parler à ma mère parce que il écoutait la conversation. Je ne pouvais rien dire et tout le monde pensait que c'était un homme tellement bien, tellement gentil, tellement attentionné. C'est moi qui devais mettre un peu plus de mien. C'est moi qui devais mettre un peu de l'eau dans mon vin parce qu'il était tellement bien et c'est moi qui exagérais. Je me souviens, je suis rentrée en France, enfin, et après je suis retournée en Écosse, et ce jour-là, c'est là qu'il a vraiment cru qu'il m'avait totalement, quoi. C'est bête à dire comme ça, mais c'était un capharnaüm, l'appartement, quand je suis rentrée, ça puait la moisissure, c'était pas rangé, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Je suis rentrée, je suis tombée au sol, j'ai pleuré, je me suis dit, j'en pouvais plus, c'était le truc en trop. Alors que, il m'a fait voir de toutes les couleurs, hein. Que ce soit par la violence, par la police qui l'arrête, par tout. Okay. Mais ce jour-là, c'était le truc de trop. Et ma mère m'a dit, maintenant tu rentres, Sonia, tu rentres. Et du coup, j'en ai profité pendant qu'il travaillait pour faire tous mes cartons, j'ai tout renvoyé, parce que j'étais seule, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis en Écosse. Hein. J'ai tout renvoyé. Le soir, j'avais ma mère au téléphone, j'ai dit, écoute, si je le quitte, il faut qu'on écrive sur une feuille toutes les questions qu'il va me poser, toutes les réponses possibles. Donc, parce qu'il va m'interroger, il va me mettre au pied du mur et il va me mitrailler avec ses questions et je perdrai tous mes moyens. Du coup, il rentre, je lui dis que je le quitte. Il n'a aucune réaction. Il me dit « Oulala, c'est bizarre ». Donc il sort et il avait arrêté de boire depuis quelques mois pour moi. Et je me dis « Bon, il va se bourrer la gueule ce soir, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et toute la nuit, je reste réveillée, angoissée comme pas possible de me dire « Qu'est-ce qui va arriver ?» Il va rentrer, il va me taper, quelque chose comme ça. Donc il rentre à 6h du matin et ça va. Tout d'un coup, il allume la lumière de la chambre et il commence à me faire un interrogatoire. Donc moi, j'ai cherché ma feuille. Et en effet, j'avais toutes les questions qu'il allait me poser. J'avais bien vu le truc. Et puis, il est parti. Et Et en fait, dans l'après-midi, je lui demande où il est, parce qu'il devait rentrer. Et il me dit, ah, je suis avec une autre fille. Je dis, pardon? Bah oui, il avait déjà sa nouvelle victime, et du coup, c'était plus simple, j'ai réussi à prendre mes affaires et je suis partie, quoi.
D'accord, ok.
Mais voilà.
Bon. Ah, effectivement, c'est une sacrée histoire.
Oui, et encore, je raccourcis, hein, mais j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de réussir à partir, parce que j'étais partie pour... mon médecin qui me suit m'a dit, oui, Sonia, si tu continues, tu vas mourir pendant pas longtemps.
Ouais, c'est chaud quand même, hein.
Donc voilà, mais ça va, je trouve que j'ai pas trop de séquelles. J'en ai eu deux principalement. La première, c'est que pendant des mois, et j'ai eu, avec mon nouveau ancien copain, pendant des mois, je l'ai vraiment tanné à dire « Ah, il dirait ça. Non, ça, il veut pas parce qu'il dirait ça. » Et j'avais tout le temps la voix de mon ex dans la tête, de « Ça, il voudrait pas, ça, il faudrait pas, ça, il faut pas faire. » Donc ça, mais après, quand il m'a dit « c'est bon, je suis pas lui », là, j'ai réagi, je me suis dit « c'est vrai, arrête ». Et j'ai réussi, parce qu'il me parlait toujours, bien sûr, il avait toujours cette emprise sur moi, et ouais. J'ai réussi à couper les contacts et à lui dire « maintenant, stop, je veux plus te parler ». Et la deuxième conséquence, on va dire, c'est comme il était alcoolique, qu'il est rentré dans des états pas possibles, qu'il était violent, voilà... Ben, j'ai eu du mal à voir les gens, enfin, en tout cas, mon nouveau ex boire. J'étais très angoissée. Parce que, par exemple, une fois où il était allé chez nos voisins boire, et ben, ils étaient au-dessus, j'ai entendu un gros boum. Et du coup, je monte pour voir, mais sauf qu'il y a la police qui frappe à la porte en haut. Donc, je rentre dans mon appartement. Et deux minutes plus tard, je vois mon ex qui descend dans notre appart avec un mec qui est en sang. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mon ex avait cassé le nez et tabassé quelqu'un. Sauf qu'il pouvait pas laisser. Il m'a dit de pas ouvrir la police parce que si la police voyait ça, il allait en prison pour 6 mois. Et du coup, il lui a remis cassé le nez, il lui a donné un bain et il l'a fait dormir chez nous. Et j'ai cru halluciner ce jour-là. Donc voilà, mon histoire.
Eh ben oui, effectivement, c'est quelque chose.
J'aurais dû finir par Sonia, ça aurait laissé le meilleur pour la fin.
Ouais, carrément. C'est clair. La question qui me vient à l'esprit, moi, c'est par rapport à ton séjour. Du coup, en fait, le plus gros de ta relation avec lui, ça s'est passé en Écosse finalement, non?
C'est en Écosse.
Oui, c'est ouais. Ça, c'était tout le temps en Écosse. Ouais.
C'est tout le temps en Écosse, voilà. Et par rapport à ta famille, justement, est-ce qu'elle s'est doutée de quelque chose? Enfin, comment ça s'est passé par rapport à ta relation entre ta famille et toi lorsque t'étais là-bas, finalement?
Alors, ma sœur, elle pensait que il était génial. Tout était de ma faute.
Ouais.
Et ma mère, elle, par contre, le voyait. Mais ma mère est du genre à laisser les gens faire leur propre expérience. Et quand elle a vu que ça allait vraiment pas, c'est là qu'elle m'a dit « Stop, maintenant, Sonia, tu rentres. »
D'accord.
Ah oui, parce que, attendez, j'ai oublié le passage le plus marrant.
Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale. Tu peux regarder.
D'accord.
Plus tard. Et donc, on refait comme ça. Je vous propose une pause musicale. On va faire comme ça, puis on se retrouve juste après, à ce moment-là, d'accord? Donc, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Around her, I know you. so small, I need some shelter. You're just running around, hell to scare to. And I leaned on you, please. Now you count me on me. And that's more love. That's the way it should be. Now I can't change the way you feel, but I could put my arms around you.
On repart sur BlaBlaBlog et cette deuxième partie, donc, et on retrouve du coup Sonia avec une très longue histoire, notamment avec un écossais, c'est ça? Et donc tu avais une deuxième, donc tu finissais l'histoire, exactement.
Voilà, en fait, donc je garde le meilleur pour la fin.
Vas-y.
Non seulement la fin de mon témoignage, mais la fin de mon histoire avec mon ex. Je ne sais plus pourquoi, je voulais prendre un billet d'avion donc, pour rentrer à ce moment-là. Et il a décidé d'enlever le routeur, la box quoi, internet. Et du coup, j'étais vraiment folle de rage, on s'engueulait. Et j'ai commencé à me rebeller, je lui ai balancé quelque chose, enfin un vase contre lui qui a éclaté bien sûr. Et je lui disais, je vais appeler la police. Et il m'a dit, mais de toute façon t'es même pas sur le bail, alors si t'appelles la police c'est toi qui vas partir. J'ai dit non mais de toute façon je vais appeler la police, tout ce que tu m'as fait. Et il a dit, mais Sonia... Qui est-ce qui va croire ? Toi qui es hystérique ou moi qui suis calme ?
D'accord.
Voilà ma dernière petite histoire très marrante. Et ça, c'est très typique des PN, je trouve. Nous faire passer pour les folles.
Ouais, très intelligent, quoi, dans la manipulation mentale, on va dire. Et du coup, donc, ça s'est terminé comme ça, quoi. Et en rentrant en France, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu as eu des séquelles, plus ou moins ? Pas trop, tu disais, effectivement.
Enfin, je disais justement que les séquelles, c'était... j'avais du mal à voir mon ex boire. Enfin, ouais. Je suis toujours un peu... j'ai toujours un peu peur de ça quand les gens boivent. Au début, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
C'est dégénère.
Et après, comme il était tout le temps dans ma tête, je ne pouvais rien faire sans lui. C'était tout le temps, on dirait ça. Ah, il ne voudrait pas que je fasse ça. Ah, il penserait ça. D'accord. Et il était tout le temps dans ma tête. Donc, bon, ça, maintenant, c'est bon. Je pense que j'ai... Je pense être quelqu'un d'assez forte et du coup j'ai réussi à me libérer de ça après maintenant presque 3 ans. Mais voilà, oui. Non, il n'y a plus trop de séquelles maintenant.
D'accord. Et tu disais, je reviens un petit peu sur ton père, donc ton père par rapport à ta sœur également, tu me disais qu'effectivement là les relations étaient un tout petit peu, étaient là aussi différentes quoi, par rapport à sa perception de ton père, c'est ça?
Oui.
Et qu'il y avait que l'engrenage était tout de même là en elle, quoi.
Oui, alors ma sœur est totalement encore, enfin, ça s'arrange de plus en plus, mais par exemple, elle ne peut pas dire du mal d'elle alors qu'elle a beaucoup plus vécu la maltraitance de mon père, on va dire les brimades, le fait d'avoir été battue. Par exemple, à une époque, elle vivait donc chez mon père quand mes parents étaient déjà divorcés, et mon père lui disait, écoute, ce soir, je ramène quelqu'un, donc tu ne rentres pas avant 2h du matin.
Ah ouais.
Ouais, des choses comme ça. Enfin, moi, je sais que donc comme Lucie disait avant, l'effet miroir. Moi, j'avais parlé de mon grand rêve d'être écrivain un jour à mon père, et mon père me disait, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Et puis un mois après, il avait pondu un roman.
Voilà.
Donc voilà, mais non, mon père c'est surtout par rapport à ma mère, et moi j'ai été très proche de ma mère, c'est pour ça que je le vis très proche d'elle, mais que je n'ai pas eu cette affection pour mon père. Il était très peu là, mais voilà, les dettes qu'il lui a fait, après la violence qu'il a eu envers ma sœur, envers nous, son alcoolisme, toujours... Quand mes parents se sont divorcés, personne ne comprenait pourquoi moi j'avais refusé de revoir mon père. Tout le monde était là, mais c'est un homme bien, il est gentil, il est charismatique. Bah oui, c'est ça un PN, c'est quelqu'un de charismatique, de séduisant, de mielleux, de, voilà, qui envoie du rêve alors que derrière c'est une ordure.
Moi je suis restée avec lui parce qu'il m'a fait le chantage au suicide. Ouais, non, mais ça vaut plus la peine de vivre.
Si
je suis tout seul, ça vaut.
D'accord. Et là aussi, donc lui aussi marchait au chantage alors, par rapport à ton père?
Non, il marchait... Enfin, si on peut dire ça, dans le sens où si tu fais pas ça, je vais m'énerver et je vais te frapper. Mais c'était pas du chantage affectif.
D'accord. Et donc du coup, toi, tu as très rapidement compris que bah, oui, t'avais bien fait la part des choses par rapport à ton père et oui, et t'avais réussi à le... Comment dire, à l'éjecter de...
Et moi, depuis mes 8 ans, en fait, je ne supporte pas mon père. À 8 ans, je me souviens dans mon lit, je me disais, je ne supporte pas, il essaye de se faire respecter par la peur, et jamais je ne le respecterai, et jamais je ne l'aimerai.
D'accord.
Donc je l'ai après supporté jusqu'à mes 17 ans, où là, il a enfin quitté ma mère. Et après, il est venu pleurer chez ma mère, comme quoi le pauvre ne pouvait pas voir sa fille. Du coup, ma mère m'a dit, s'il te plaît Sonia, va voir ton père de temps en temps. Du coup, une fois par semaine, tous les mercredis midi, je devais manger avec lui. Donc il venait me chercher à l'appartement alors qu'il habitait à 20 mètres, bien sûr, pour toujours avoir cette influence sur nous, il habitait vraiment tout près, quoi. Et quand il venait me chercher, bah, il prenait des choses dans l'appartement, peu à peu. Et un jour, je lui ai dit, mais arrête de prendre des choses, c'est à nous. Il a dit, tu commences pas maintenant comme ta mère. Hein. Et d'ailleurs, je lui ai écrit une lettre quand j'avais 18 ans pour lui dire tout ce que je pensais de lui. Et il a dit que j'étais... C'est quoi, une marionnette sans cervelle manipulée par ma mère.
D'accord.
Mais de toute façon, il ne pense pas grand-chose de nous. Enfin, pour moi, je l'ai gâché sa vie, j'étais un sacrifice, il ne m'a jamais voulu. Et puis, c'est vraiment pas glamour de dire ça, mais j'ai juste à écarter les jambes pour pouvoir m'en sortir dans la vie, d'après lui.
Ah, donc, ouais, ok.
C'est charmant.
Ouais, c'est charmant.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que tu gardes de tout ça, finalement, du coup? Donc, comment ça se passe après, je veux dire? Donc, tu as toujours ce fameux séquel que tu disais, où en fait, tu as toujours la crainte, ouais, par rapport à cette relation qu'est avec l'alcool, c'est ça? C'est toujours un peu compliqué.
Ben, par rapport à l'alcool, bon, ça va beaucoup mieux. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que, donc, par rapport à mon ex... Enfin, ce qui est marrant, c'est que mon ex, PN, m'a aidé à pardonner mon père, PN.
Oui.
Mais c'est vraiment bizarre parce qu'il m'a vraiment aidé à travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai pardonné mon père, j'ai pardonné aussi à mon ex parce que la colère, ça ne fait du mal qu'à moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vais à la fac, je passe toujours devant l'appartement de mon père et j'ai toujours cette peur de le voir. Ou quand je suis en ville, je vais être aux aguets et j'ai peur de le voir parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est devant moi, comment je réagirai. J'ai envie de me cacher, mais en même temps, j'ai envie de prendre un couteau et de le poignarder. Et en même temps, je crois que si je le vois, je vais juste être tétanisée et je vais lui faire la bise tout bêtement, en fait. Je vais lui dire bonjour papa, je vais lui faire la bise et puis voilà.
D'accord, et donc tu sais pas trop ta réaction finalement, ouais, par rapport à...
Ben, je ne ferai pas ma réaction parce que j'ai toujours cette peur quand même par rapport à lui.
Ouais, quand même, ouais.
Qui était violent, voilà. Mais vu que je le vois pas, ça va.
D'accord. Bon bah très bien, ok. Là aussi, s'il n'y a pas d'avis particulier, de suggestion, on va passer à Lucie.
Alors, moi pour le coup, ça a été mon petit ami. Alors pour replacer dans le contexte, parce que je pense que quand on tombe sous l'emprise d'un PN, c'est souvent quelque chose qui est en fait, c'est contextuel. C'est-à-dire qu'on va tomber sous l'emprise d'un pervers narcissique. Si ça s'était passé la rencontre 2 ans avant ou 2 ans après, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Donc moi je sortais d'une relation de 3 ans avec quelqu'un, ça s'était plutôt bien passé, c'était une relation d'amour raisonné, on va dire. J'ai jamais été folle amoureuse de lui, mais ça se passait bien, on était assez vite un vieux couple entre guillemets, et on a rompu comme un accord et j'avais l'impression que ça m'avait pas atteint à l'époque. Et j'étais parallèlement en dernière année de master dans une école qui était très élitiste, très difficile, très reconnue. Et c'était un moment de grande tension, j'avais perdu mes repères, où j'étais sous pression, où je dormais peu. Et j'étais, je pense, dans une perte aussi de confiance en moi, professionnellement, physiquement, par rapport à plein de choses. Et ce soir-là, j'aurais mieux fait de rester chez moi, mais j'ai une amie qui m'avait proposé de sortir. Et finalement, j'ai accepté. Et en fait, je suis tombée sur lui à cette soirée. Et pour le coup, ça ressemblait au début à un coup de foudre, vraiment. Alors que je suis vraiment pas quelqu'un de fleur bleue ou sentimentale, c'est très rare que je tombe franchement amoureuse de mes petits amis. Je peux les apprécier, je peux les respecter, mais c'est rare que je sois franchement amoureuse. Et là, je l'ai vu et j'ai commencé à bégayer. Je ne savais plus quoi dire, j'avais l'impression d'être stupide. Enfin, vraiment, coup de foudre d'adolescente, quoi. Donc, on est resté au restaurant, l'un en face de l'autre, je fuyais son regard de toute la soirée, alors que lui, il me fixait. Ensuite, on est allé à une soirée, une grosse soirée d'amis. Et dès qu'il entrait dans une pièce pour sortir, enfin, j'étais vraiment... je pense que mon subconscient a été plus intelligent que moi. Je pense que mon subconscient a senti que c'était danger, danger, ça clignotait, et moi, non. Et en fait, au bout d'un moment dans la soirée, je me suis dit, non, mais quand même, t'es trop bête. Tu vas pas, enfin, t'as plus 14 ans, affronte-le un bon coup, puis ensuite ça ira mieux. Et donc, du coup, on a fait une partie de jeux vidéo ensemble. Je précise, j'ai fait une école de jeux vidéo, c'est pour ça. Donc, du coup, il y avait des ateliers jeux vidéo à cette soirée, et on fait une partie ensemble. Et à la fin, je me souviens que donc, je lâche la manette, je lui dis bravo, je lui serrais la main. Il me prend dans ses bras, et à ce moment-là, j'étais, comme disait Sonia avant, j'étais tétanisée. En fait, j'étais incapable de bouger, j'étais complètement... je perdais mes mots. Et quand on est parti de cette soirée, donc notre amie commune qui nous avait emmenés avait remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre entre nous deux. Et en fait, elle a eu la très mauvaise idée d'organiser un rendez-vous entre lui et moi. Et on a commencé à sortir ensemble. Et la phase de séduction, parce qu'il y a toujours une phase de séduction quand on sort avec un pervers narcissique... Je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu. Moi, ça a duré à peu près 3 mois. Pendant 3 mois, j'avais l'impression qu'il avait lu le guide du petit ami idéal. Donc, genre, je rentrais chez moi, il avait les clés de chez moi. Très vite, je lui ai fait trop confiance, d'ailleurs. Ça, c'est une caractéristique quand on rencontre un pervers narcissique. C'est que très vite, en fait, on a envie de susciter la confiance de son côté. On a envie qu'il nous fasse confiance. Et du coup, on se confie très, très vite à lui, alors que lui ne dit rien de lui, on ne sait rien de lui. Et ça lui donne très vite une emprise sur nous. Et pendant 2 mois, donc c'était, je rentrais chez moi, j'avais des bouquets de fleurs, des lettres d'amour sur la table. Un jour, il est rentré chez moi quand j'étais pas là pour me faire une tarte aux pommes. Enfin, c'était un peu surréaliste.
Le prince charmant, quoi.
Le prince charmant. Ah, vraiment. Vraiment. Et en fait, je pense qu'il a senti en moi qu'en réalité, j'avais envie d'être amoureuse, j'avais envie d'être romantique, j'avais envie de me laisser aller dans... mais que j'étais trop blasée peut-être ou pas assez confiance en moi en fait pour me laisser aller dans ce genre de relation. Il a senti le manque et c'est pour ça qu'avant je parlais de levier à actionner quelque part, c'est que lui il a clairement senti que mon levier il était là et que derrière mes apparences peut-être un peu garçon manqué, un peu rude, en fait j'avais envie de ça et il me l'a donné mais complètement, ce qui fait qu'au bout de 3 mois j'avais l'impression d'être complètement amoureuse, ce qui est faux. Quand on est avec un pervers narcissique, on n'est pas amoureuse, on est dépendant affectif. En fait, il y a une grande nuance entre les deux. Amoureuse, c'est censé être une relation saine. On aime la personne pour de bonnes raisons. Alors que dépendant affectif, on est juste dans l'angoisse de l'abandon et de la perte et du rejet. Et donc, moi, je me souviens du soir où ça a basculé. Ça donne l'impression de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un petit peu. Je rappelle le petit copain parfait. Et alors, ce jour-là, il avait été cataclysmique pour moi parce que dans le même jour, j'avais foiré un jury très important qui fait que j'avais perdu 7 mois de travail, très rude, hein, avec plein de nuits blanches. J'avais appris que mon chat était mort. Je sais plus encore ce qu'il y avait eu. Enfin bref, j'avais été rejetée à un stage. Enfin, c'était une sorte d'accumulation. Et je rentre le soir en larmes chez moi. Je lui avais jamais rien demandé, hein, vraiment jamais rien. Et je l'appelle en larmes et je lui dis, écoute, il faut que tu viennes, là vraiment je vais pas bien. Et il me répond, non je peux pas, je suis en train de jouer à League of Legends. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo. Ouais. Donc au début je me dis, bon, il avait pas une grande expérience des relations sentimentales. Il avait eu une copine avant moi, il m'a rencontré à 23 ans, il était toujours puceau. Je me dis, il est peut-être un peu handicapé sentimentalement parlant, donc... Le pauvre, il n'a pas compris le problème, je lui réexplique. Donc je lui réexplique calmement et puis il me redit aussi calmement, ah non mais toi tu n'as toujours pas compris que là j'avais vraiment envie de jouer à League of Legends, et il me raccroche le nez. Donc sur le coup, on ne comprend pas. On se dit, j'ai dû dire quelque chose la dernière fois que je l'ai vu qui ne lui a pas plu, et là en fait il me fait la gueule, il me coude. Ou alors peut-être qu'il a entendu quelque chose par une amie commune, enfin on lui trouve des excuses, on se dit c'est pas possible, c'est incohérent.
Et finalement, il est revenu le lendemain. Donc moi, j'avais pleuré toute la nuit. Évidemment, j'avais les yeux bouffis. Donc je lui ouvre, très calme, très serein. Il s'assoit sur le canapé. Et au début, évidemment, je n'insulte pas, mais je lui hurle dessus. Je lui dis que c'est inadmissible, que ça se fait pas, que... Surtout qu'il était à 3 minutes à pied de chez moi, on ne peut pas dire que j'ai demandé grand-chose comme effort. Et il n'a aucune expression sur son visage, mais vraiment aucune, en mode masque. Et il ne dit rien, le silence total. Et en fait, je commence à stresser, parce que je ne supporte pas justement ce silence. Et peut-être au bout, je ne sais pas, de 20 minutes, une demi-heure, je ne me souviens plus, je m'énerve. Je finis par... Il faut que je trouve en fait une solution pour sortir de cette discussion. Il faut que je trouve une solution. Et je finis par utiliser le compromis. Et je lui dis, oui, bon, peut-être que... Peut-être que j'avais eu tort de faire ça au final. Et là, il me prend dans les bras, il me dit une phrase du genre, c'est bien de pardonner ses erreurs, enfin, c'est bien de reconnaître ses erreurs, je te pardonne. Et je suis tellement soulagée que la discussion soit finie, que j'ai rien dit. Alors que je suis quelqu'un de, enfin, généralement, je suis quelqu'un de très féministe, je supporte pas qu'on rabaisse, et là, j'ai juste rien dit, j'ai fermé ma bouche. Et en fait, toutes nos disputes qui ont suivi ont ressemblé à ça. C'est-à-dire que je hurlais les 15-20 premières minutes et lui restait placide. Et au final, il finissait, il gagnait de cette manière-là. Alors, la petite particularité dans la relation que j'ai eue avec lui, c'est qu'au fur et à mesure qu'on sortait ensemble, il a commencé à manifester une certaine attirance pour la souffrance physique d'autrui. Ça a commencé... Je ne sais même pas si je dois commencer dans ce sens-là. Non, je vais commencer par... Désolée, je m'embrouille chronologiquement.
Ah, vas-y, prends ton temps.
Là, je vais aborder un sujet. Bon, c'est un peu personnel. Mais en gros, les problèmes ont commencé d'abord d'un point de vue sexuel. Parce qu'il était anorgasmique, ce que j'avais jamais, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'anorgasmie, c'est les hommes qui éjaculent sans ressentir l'orgasme. Et moi, je comprenais pas d'où ça venait. J'avais jamais eu ce type de problème avec aucun de mes copains. Donc, forcément, je me demandais est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de lui, Et j'avais fait du coup des recherches pour savoir qu'est-ce qui pouvait provoquer ça. Et à l'époque, j'étais tombée sur un site qui disait qu'une personne sur cinq, enfin un homme sur cinq qui souffre d'anorgasmie est en fait malade de la sclérose en plaques. Et moi, ma grand-mère est décédée de la sclérose en plaques. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée sur le moment et j'hésitais à lui en parler. Et finalement, je l'ai fait et sa réaction m'a un peu perturbée. C'est-à-dire qu'il aurait pu soit me dire que j'étais folle, que c'était n'importe quoi, que j'étais paranoïaque, ou il aurait pu me rassurer en me disant « je vais faire un test, t'as raison ». Enfin, il aurait pu avoir n'importe quelle réaction normale. Sa réaction, ça a été de faire « ah ouais ?» et de rigoler. Et de me laisser comme ça, de me planter, genre avec mes angoisses, avec mes peut-être qu'il est très malade, peut-être qu'il n'a jamais réabordé le sujet. Après, c'était pas le seul problème qu'il avait. Il avait aussi, il souffrait de, il était phobique du sexe féminin en fait. Il ne pouvait pas voir un sexe féminin, il ne pouvait pas imaginer, il ne pouvait pas regarder un porno ni rien. Il avait beaucoup de problèmes et ça fait que j'ai fini par me demander à l'époque s'il n'avait pas été victime de violences sexuelles. Au début, c'est le premier truc que je me suis dit. J'ai remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais au début, j'ai cru que c'était ça. Et j'ai cru que ça venait de sa mère, parce que sa mère avait un rapport un peu bizarre avec lui. Il m'avait raconté qu'elle lui donnait des bains jusqu'à ses 9 ans ou un truc comme ça, assez tard. J'avais l'impression qu'il me disait des choses sans me les dire, en fait. Les pervers narcissiques font beaucoup ça. Ils mélangent la réalité, la fiction, ils fabulent. Et au final, on ne sait plus du tout où est la vérité ni ce qu'on doit penser. Donc pendant longtemps, je suis restée sur la théorie de l'inceste qui pouvait justifier son comportement. Jusqu'au jour où je lui en parle clairement. Je lui dis que ça va plus, qu'on va aller voir un sexologue, et il me dit que ça n'a rien à voir avec sa mère, et il me dit qu'il a été victime d'un pédophile quand il était petit. Alors je préviens tout de suite tout le monde, c'était faux. Alors il me raconte une histoire où sur le coup j'ai eu l'impression que c'était totalement en vrai, et en fait si n'importe quelle personne qui n'aurait pas été victime aurait vu qu'il y avait un problème. Il me raconte que quand il était en classe de CM1, il avait un instit qui, quand il était bien, il le mettait cul nu sur ses genoux, il le caressait, etc. Et qu'il y a un des élèves qui avait fini par parler. à ses parents et que le mec, en question, les filles qui étaient venues chez lui, avaient fouillé dans son ordinateur, avaient vu qu'il y avait un certain nombre de photos pédophiles et donc ils ont dit que la semaine d'après, il reviendrait pour l'arrêter et qu'entre-temps, il s'était tiré une balle dans la tête. Donc il me raconte cette histoire. Donc évidemment, moi, sur le coup, ça appelle au côté Jésus-Christ, le côté Saint-Bernard, le côté mon Dieu, le pauvre, j'ai envie de dire, etc. Pardon ?
Sauveur, j'ai envie de dire, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Ils activent ce côté un peu maternel, quoi. Et ce qui fait que, évidemment, pendant longtemps, je lui ai foutu la paix avec tout ça, parce que je me disais, oh là là, le pauvre. Et ensuite, progressivement, il y a eu une troisième phase qui a, pour le coup, été terrible pour moi, parce que c'est là où j'ai fait la distinction entre pervers narcissique et psychopathe, en fait, on va dire. Il a commencé à me dire des choses. Au début, je croyais que c'était des blagues de mauvais goût. Et c'est devenu de plus en plus insistant, du genre quand on voyait une vidéo gore ou quoi que ce soit, il me disait oh là là, je préfère imaginer des enfants morts, ou alors on marchait dans la rue main dans la main. Et puis tout d'un coup, ça lui venait comme ça, mais comme un moustique qui l'aurait piqué. Il disait j'ai envie de brûler des gens. Ensuite, il me disait qu'il faisait des rêves conscients où il torturait, où il tuait des gens. Je me souviens d'un rêve qu'il m'avait raconté où il était sur un pont, genre comme à Manhattan, quoi, et où il y avait les gens qui étaient en file indienne sur le pont et qui les jetaient dans le vide, ou des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me dire oulala, il y a un problème de fond, il y a vraiment un vrai problème psychique. Et j'en avais parlé à une amie commune qu'on a, celle par qui je l'ai rencontrée. Et elle m'a donné à la fois un très bon conseil et un très mauvais conseil. Elle m'a dit, pendant une semaine, t'as qu'à faire comme lui, t'as qu'à enchaîner, dire des horreurs, et tu verras bien comment il réagit. Si c'est un genre qui se donne une sorte de barrière pour se protéger, on ne sait pas trop quoi, il sera déstabilisé, tu le verras, et sinon, tu le verras aussi. Et elle pensait pas si bien dire, parce que je l'ai bien vu, pour le coup. Par exemple, je rentrais le premier soir et je disais que je m'étais engueulée avec un graphiste de mon groupe et que c'était vraiment un crétin et que si j'avais pu, j'aurais donné un gros coup de poing et j'aurais pété toutes les dents. Déjà, pour dire ça, c'était vraiment du théâtre parce que je suis personne. Et lui, il me répond « Non, si j'étais toi, je l'aurais plongé dans un bain d'acide par les pieds, ça aurait été plus marrant. » Et toute la semaine, ça a été une sorte de surenchère, mais malsaine, mais de pire en pire. J'avais l'impression qu'il me sauve, quoi. Et il m'envoyait peut-être 2 messages par jour avant. Là, je passais à 15 messages par jour. Il était vraiment entré dans une sorte de dépendance à ça. Et il m'a raconté des trucs qu'il avait vus sur Internet, des vidéos de décapitation, de trucs comme ça, où je lui demandais, mais comment es-tu ? Il me répondait pas, il me disait par hasard. Enfin, genre, oui, évidemment, on est tous tombés sur une vidéo de décapitation par hasard. Enfin, évidemment. Hein. Mais en fait, à l'époque, je le croyais, parce qu'en fait, je croyais tout ce qu'il me disait. Et je me disais toujours, il doit être victime de quelque chose pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, le temps a passé et il était de plus en plus odieux avec moi. Par exemple, un jour, il s'est engueulé avec notre amie commune et je l'avais invité au restaurant. On avait passé un très bon week-end, toujours des hauts et des bas. Le côté j'interne la belle et la bête, quoi, entre guillemets. Et on était au restaurant ensemble et je lui dis mais pourquoi tu ne lui dis pas à cette fille tout simplement ce que tu penses, à moi tu me les dis bien les choses, et il me répond droit dans les yeux mais sans aucune expression faciale à nouveau, oui mais peut-être que j'aime plus mes amis que toi en fait, okay. Sans aucune raison, okay. Je le regarde et je lui dis mais tu te rends compte que là je devrais me lever et partir, et il me dit oui tu devrais sûrement. Mais tu feras pas. Et c'est vrai que je le fais pas. Je le fais pas parce que le pire c'est qu'il a raison. Je lui donne raison. Je le fais pas parce que partir pour aller où? Où est-ce que ça mène en fait? Et évidemment, on a une vraie dépendance à eux. Il y a une autre fois aussi, pour donner quelques exemples où ça m'a vraiment marqué, où j'en pouvais plus sexuellement parlant. C'était en dessous du niveau zéro, quoi. Et un jour, je décide d'avoir une discussion avec lui et je me dis, je vais essayer de susciter de la culpabilité. Alors, à toutes les personnes qui essayent de susciter de la culpabilité chez les PN, c'est pas la peine, ils peuvent pas la ressentir. Pardon ?
Non, ça marche.
Ah non, pardon, ça marche pour toi ?
Non.
Ah, ça marche pas, Désolée, j'entends pas très bien avec ton micro.
Mais ça marche et pas.
Non, ça marche pas du tout. Et je lui dis, mais ça te dérange pas, enfin, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, j'ai pas réussi à avoir un orgasme en 6 mois. Et il me prend dans les bras, il me caresse les cheveux et il me dit, non, ça me dérange pas. J'étais contente pour lui. Voilà, je viens de tuer Sonia. C'est très gentil, merci Sonia qui s'est apportée pour rire. Et donc, un soir, c'était à une semaine de mon jury final, de mon master, donc j'étais épuisée, je dormais presque plus, j'étais vraiment dans un état, je frôlais le burn-out, et il avait été détestable un soir de plus, et ça me trottait dans la tête, et je finis par me dire, bon, maintenant, faut que tu comprennes, faut que tu saches. En fait, il y avait une obsession, c'est savoir ce qu'il pense, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et je fais un truc pas bien, que j'ai pas fait avec les autres, mais que j'ai fait avec lui, c'est que je me relève pour fouiller dans son portable et son Facebook, pendant qu'il dormait. Et là, j'ai découvert une autre personne, en fait. Je me suis rendu compte que je sortais avec quelqu'un qui n'existait pas. Et par exemple, sur son Facebook, il avait une discussion avec une ancienne amie à lui, où il a raconté très fièrement qu'enfin, à 23 ans, il n'était plus puceau. Et elle lui dit « Ah, bah, j'espère que ça s'est bien passé, que tu l'aimes, etc. » Il répond « Oui, de toute façon, j'ai choisi parce que je savais que ce serait vite fait. » Genre, il me traitait. C'était le message daté de la première semaine où on était ensemble. Il me faisait des tartes aux pommes et il m'emmenait des bouquets de fleurs. Donc, en gros, il me traitait de salope auprès de ses amis, alors qu'il faisait tout gentil devant, quoi. Et je tourne notamment ceci sur une discussion SMS qu'il a eue avec notre amie commune, où il disait que, il disait « je suis pas amoureux d'elle, je m'en fous d'elle, en fait, je sais juste pas comment lui dire ». Sachant que deux mois avant, je lui avais offert un séjour à Strasbourg, chez moi, ça m'avait coûté 500 euros. Je l'avais organisé parce qu'il avait une famille complètement nulle, enfin vraiment, il fêtait pas les anniversaires, c'était très froid les uns avec les autres, enfin vraiment un mauvais rapport familial. Et que j'avais envie de lui offrir un bel anniversaire. J'avais envie qu'il passe un anniversaire en famille. Et comme moi, j'ai une famille qui est très entourante, du coup, j'avais offert son anniversaire chez moi. J'avais organisé plein de choses. Et ça m'a coûté 500 euros. Et je me souviens que quand je lui ai offert, je lui avais demandé il y a un problème parce qu'il avait tiré une drôle de tête. Et il m'a dit non, je t'aime, comme si de rien n'était. Donc toujours le côté, ils n'ont pas de problème à tirer de l'argent de leur victime. Donc bon, en tout cas, je me dis que déjà la fille, c'est pas une très bonne amie, que lui, c'est encore moins un bon copain. Et donc je le réveille et je lui dis est-ce que tu m'aimes? Il me répond pas. Je lui dis on va rompre. Et il me dit si tu veux, genre aucune expression. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un sentiment de panique. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais? T'as une semaine de ton diplôme, comme si t'avais besoin d'une rupture maintenant. J'avais l'impression que je pouvais pas respirer sans lui de toute façon. Et je lui dis écoute, ce qu'on fait, c'est que de toute façon la semaine prochaine, c'est la dernière fois que, enfin après je déménage dans une autre région. Donc on reste ensemble une semaine et après je pars et en gros chacun fait sa vie de son côté. Donc très bien, on fait ça. Je passe mon diplôme, il n'en a rien à faire, il discute avec tout le monde sauf avec moi, il me demande même pas comment ça se passe le jour de mon diplôme, enfin vraiment en mode rien à foutre. Hein. Par contre, dès que ma mère est là, il me prend la main, il me dit mon cœur, il me met toujours dans une certaine représentation vis-à-vis des autres. Et en fait, comme il a été adorable quand ma mère était là, je me dis que peut-être que je me suis trompée, il y a toujours ce côté, c'est peut-être moi qui suis folle, j'ai poussé, j'ai peut-être... je me dis... peut-être que ça vaut le coup de continuer. Donc je l'invite au restaurant la veille du départ et je lui dis écoute, est-ce que tu veux pas qu'on tente quand même une relation à distance? Je sais pas, j'ai l'impression de quelque chose qui est pas fini, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien dans cette histoire. Et là il me dit mais c'est toi qui voulais rompre, c'est toi qui m'as réveillée à je sais pas quelle heure pour me dire que c'était fini, moi j'ai jamais voulu rompre avec toi. Et là je suis un peu je ressens de la culpabilité, je me dis oui c'est vrai, mais en fait pourquoi j'ai foutu la merde? Et je dis bon alors on continue. Après, les messages sont faits de plus en plus rares. Donc moi, je vivais à Nice. À ce moment-là, j'étais en stage à Nice. Lui, il était dans le nord de la France. Et il ne voulait pas venir à Nice. Donc je lui dis, si jamais tu ne viens pas, on rompt. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas qu'on passe 6 mois sans se voir. Donc, il prend des billets. Donc, il y a la perversion quand même d'aller jusqu'à dépenser de l'argent pour venir alors qu'il ne voulait pas être avec moi. On passe une semaine géniale. Il est adorable. Tout se passe bien. Tout d'un coup, ses problèmes sexuels, j'ai l'impression que c'est envolé. Et... il y a eu cette fameuse discussion, qui, je pense que c'était la discussion qui a fait que ça s'est fini, chez moi, dans mon appartement à Nice. Et je finis par lui, je regarde dans les yeux, je sais pas, ça me prend. Et je lui dis, je me demande si t'es pas sociopathe ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et là, à nouveau, plus d'expression. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et je sais pas, il y avait tellement de pression, je me mets à pleurer. Et il me dit, arrête de chialer, ça sert à rien. Pour la première fois, je me dresse et je dis, je pleure parce que j'ai quelque chose à sortir, mais au moins, moi, je sors quelque chose. Toi, t'as aucun sentiment, il y a jamais rien qui transparaît, en fait. Et j'ai l'impression que t'es une coquille vide. Et on s'est fixé droit dans les yeux pendant je sais pas combien de temps, sans que rien ne se dise. Et je finis par lui dire, mais je sais que je pourrais t'aider. Et il me dit, et si je voulais pas être aidée? Et si j'avais pas envie que ça s'arrange? Et là, c'était trop pour moi. Donc je pense que
Il m'attrape par le bras, il me regarde dans les yeux et il me dit « La seule chose que tu dois savoir, c'est que je t'aime. C'est que t'es la seule chose que j'aime dans ce monde. » Et à ce moment-là, j'étais complètement tétanisée, je bougeais plus. Et une semaine après, je reçois un message à 2h, enfin, j'ai plus de nouvelles. Donc je le rappelle, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et à 2h du matin, il me renvoie un message avec « Tu crois que t'es la seule à avoir des problèmes ? Évidemment, t'es complètement égocentrique. » Et un message très sec comme ça, je sais plus exactement comment il l'avait formulé. Et là, évidemment, je suis en panique. Je me dis, il a dû s'embuler avec ses parents, il y a quelque chose de grave. Donc, je l'appelle. Et notre rupture a duré 7 heures au téléphone, où j'essayais de comprendre, j'essayais, je tournais en rond dans ma tête alors qu'il n'y avait rien à comprendre. Et il était tellement doué que j'ai fini par me plaquer moi-même. Ça veut dire qu'il m'a tellement fait ressentir de culpabilité au moment de la rupture que j'ai fini par dire au téléphone « Oui, non mais t'as raison, je comprends tellement, je suis tellement en gros sous toi, qu'est-ce que j'ai pu te faire chier avec tes problèmes psychologiques, je suis tellement désolée, j'aurais mieux fait de me taire. » Et limite à la fin, il me disait « Je te pardonne, quoi, on part bons amis. » Donc vraiment en mode carpette, pire, vous ne pouvez pas. Et... ce soir-là, j'avais l'impression d'être au bord du suicide. Je comprenais plus rien, ça me ressemblait pas, j'étais plus moi, je savais plus qui j'étais, je savais plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches.
Oui, mais vas-y, je t'en prie. Juste, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les peines arrivent bien à faire, c'est à vous dire les pires choses au monde. Et nous, ce qu'on fait, on dit oui, merci, c'est vrai, merci de m'avoir éclairé.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on a vraiment il y a un côté presque sadomaso qui s'installe, au moins psychologiquement parlant, parfois physiquement parlant, et dans une relation où on est complètement soumis à l'autre et on n'arrive pas à dire stop. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai commencé à me rendre compte progressivement qu'il y avait un problème. Je savais pas ce que c'était au début, je savais pas ce que c'était un pervers narcissique. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Après, quand j'ai étendu, que j'ai regardé, sur énormément de sites, je me suis rendu compte que ça collait plus au profil psychopathe, parce que tout psychopathe est un pervers narcissique, tous les pervers narcissiques ne sont pas psychopathes. Mais bon, son attirance quasi sexuelle pour la souffrance, pour la torture, me laisse à penser qu'il doit être atteint de psychopathie. J'en ai discuté une fois avec un psy qui m'a dit que c'était possible, qu'il ne voulait pas poser de diagnostic sans connaître la personne, mais que ça collait, quoi. Donc, je pense qu'il était psychopathe. Et donc, une semaine après, mon ami a eu une discussion avec lui, notre ancien ami a eu une discussion avec lui sur Skype, où il lui disait qu'il n'en avait rien à foutre de moi, qu'il respirait à nouveau depuis qu'il n'était plus avec moi, tant mieux pour lui. Et là, elle lui dit, mais t'inquiète pas, elle aussi, d'ailleurs, elle est à nouveau en couple, ce qui n'était pas vrai, mais elle a eu la bonne réaction. Et il a répondu « Ah bon, c'est vrai ? Bon, bah, je vais peut-être la recontacter quand même, alors. Tu penses que je suis un connard ?» Puis après, il s'est déconnecté, c'est la dernière fois qu'elle appelle de lui. Et notre relation s'est quasiment finie comme ça. Il y a eu un dernier soubresaut il y a 2 mois, où c'était la seule personne qui connaissait tous mes codes, tout. Et parce que c'est la seule personne à qui je faisais confiance, bizarrement. Et j'ai reçu un message de moi-même par mail me disant « Je ne t'invite pas à mon anniversaire, je voulais juste que tu le saches. » Je ne sais plus quelle méchanceté encore dans le mail. « Gros bisous » et je sais que c'est lui parce que c'est suffisamment immature pour que ça lui plaise. Voilà.
Eh ben...
Je me suis à faire une traite.
Ouais, c'est clair que... Ouais, t'es passé par des passages super glauques quand même.
Oui. C'est le sentiment que j'en ai eu, quelque chose de très... En fait, on a l'impression, quand on voit des trucs des fois à la télé, des hommes genre Dutroux, etc., on se dit c'est pas possible. Mais en fait, moi je vois très bien le mécanisme. Au contraire, c'est en fait, ils se font passer pour des victimes et ils font culpabiliser les victimes elles-mêmes, qui du coup restent souvent par... d'une part, il y a une part de fascination et une part de culpabilité.
Oui, c'est clair. Et toute cette relation-là durait combien de temps finalement ?
Seulement 7 mois, donc c'était très concentré. Ah,
ben voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup tout a été super concentré, quoi.
Ça allait très vite, et c'est ça qui m'a surprise, parce que moi je mets du temps à m'attacher, je mets du temps à ce que ça veuille dire quelque chose pour moi, et là ça a été une grande claque en fait. Et d'ailleurs, donc ça fait maintenant plus d'un an et demi que c'est fini, et ça fait un an et demi que je suis célibataire, que je ne supporte pas qu'un homme m'approche ou qu'un homme me touche. Je ne suis toujours pas passée au-dessus d'une certaine manière par rapport D'accord. à ça. Là, j'arrive pas à m'entrer en couple.
Donc grosse, ouais, c'est quel à ce niveau-là, quoi, ça c'est clair. Ouais, ouais, c'est...
Oui, vraiment, oui. J'arrive pas à faire confiance.
Et ce que je trouve fou, en fait, c'est que dès le départ, en fait, tu t'es pas reconnue toi-même, finalement, c'est ça ?
Ben, non, pas tout de suite. En fait, pendant la phase de séduction, si, mais je me sentais volée, en fait. D'accord. J'avais l'impression, au contraire, d'être complète, d'être enfin la personne qu'en fait, je ne faisais pas être. Et à partir, je me suis plus reconnue. Il est passé dans la phase de domination, où je n'arrivais pas à répondre.
Ouais, donc là, tu t'es dit, ouais, il y a un truc, quoi. Enfin, il y a un truc. Même pas ça. C'est que du coup, si j'ai bien compris, c'est que t'as jamais été comme ça, finalement. Quand tu t'es dit non. Devant lui, je peux rien faire, il se passe un truc, quoi.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit très tardivement que le problème venait de moi. Pourquoi je dis il venait de moi ? Parce que je pense que c'est très très important dans un cadre de relation avec un pervers narcissique. La victime n'est pas coupable, mais d'une certaine manière, bon, sauf dans les cas où c'est le père ou le beau-père, dans les cas dits avant, pour le coup, c'est pas nous qui choisissons la relation, on nous l'impose par le biais familial. Mais dans un cas où on est dans une relation sentimentale avec un pervers narcissique, la victime est responsable mais pas coupable. Alors pourquoi je dis ça ? Elle n'est pas coupable parce qu'évidemment, elle ne cherche pas consciemment une relation pervers, c'est une personne comme n'importe qui. Mais en fait, pourquoi je dis responsable ? Parce que avec le recul, je me dis que si j'avais soigné certaines failles, justement mon côté un peu Saint-Bernard, je veux sauver tout le monde, où en fait on se sauve toujours un peu à travers le sauvetage des autres, quoi, j'ai envie de dire, les problèmes des autres. Si j'avais réglé ce problème-là, je ne serais pas tombée dans ses griffes. Et c'est parce que j'avais des failles, c'est parce que j'étais fragile qu'il a senti ça en moi, je pense, d'une certaine manière, et qu'il l'a exploité. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je m'interdis de retourner avec un homme tant que je ne m'aime pas suffisamment pour être sûre de ne pas retomber là-dedans.
Te connaître toi avant d'aimer quelqu'un d'autre.
Ouais, je pense que c'est très, très important. C'est le seul rempart qu'on a contre ces gens-là, je pense.
Ouais, c'est vrai, c'était super chaud, quoi. C'est vrai que 7 mois comme ça, c'est une expérience.
Ah, j'avais l'impression de devenir folle. Et comme disait très justement Sonia avant, on a souvent l'impression que c'est nous les folles. Très longtemps, on n'en parle pas parce qu'en fait, on a l'impression que le problème venait de nous. Vraiment. Et pendant très longtemps, je me suis dit, mais est-ce que j'ai imaginé tout ça ? Est-ce que j'ai... Heureusement que les SMS, ça existe, que les conversations, ça existe, pour le prouver, parce que les gens ne nous croiraient pas, sinon. Ouais. Parce que c'est des gens qui passent tellement bien, sinon, en dehors, dans leur milieu professionnel, ou dans leur... C'est tout sourire par devant, c'est des gens qui peuvent même paraître altruistes, généreux, gentils, timides, et en réalité, dans le cadre privé, eh ben, c'est des monstres.
Et c'est vrai que ça, c'était très étonnant avec mon ex qui était moche comme un pou et qui pourtant a fait ce truc qui a tiré toutes les filles autour de lui. Et c'était non seulement ça, mais au travail, c'était le meilleur vendeur. Il avait des primes de malade parce que il s'en vantait, il disait, parce que t'apprends des techniques de manipulation quand tu le vends. Mm-hmm. Et il s'en vantait de réussir à faire acheter à des gens des choses dont il n'avait pas besoin. Et tu viens pour acheter un truc à 5 euros, ils leur vendaient des trucs à 200, 300 euros. Et c'était hallucinant.
C'est des gens qui ont souvent un charisme. D'ailleurs, ce qui me faisait beaucoup rire, par exemple, là, Sonia donne un bon exemple, j'en ai un autre. Mon ex, quand quelqu'un lui demandait le chemin, il donnait systématiquement un chemin dans le sens inverse, faux. Il ne savait même pas pourquoi. Mais en fait, c'est juste pour le plaisir d'escroquer, pour le plaisir d'entuber. Il y a une sorte de jouissance dans le fait d'avoir un pouvoir nuisible sur les autres.
C'est l'art et la manière de mener son monde, quoi. Enfin, de manière un peu bizarre, mais bon.
C'est leur seule manière d'exister. En fait, ils n'ont pas d'existence propre, sinon. Ils vont aimer ce que vous aimez, en réalité, ils vont s'intéresser à ce que vous vous intéressez.
Mais c'est ce que c'est une coquille vide, c'est ça, en fait. Ouais, oui. C'est ça.
Ce que je me suis dit le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit, merde, mais en fait, il était sûr pervers narcissique, probablement psychopathe. Je me suis dit, en fait, c'est une chaise. C'est pas plus ou moins qu'une chaise, c'est un meuble, c'est un truc. J'ai assis dessus ce que je voulais voir, mais en réalité, il n'a jamais existé. Le garçon avec qui je suis sortie, il était uniquement dans ma tête. Lui, il n'est rien en réalité, il ne ressent rien.
Ouais. Mais t'as dû vraiment halluciner quand t'as découvert ça, je veux dire.
Oui, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un mauvais film avec un retournement de situation à la fin où tout se passe dans la tête du héros. Ouais,
ouais, c'est un truc assez hallucinant. Ouais. Mais là où tu as été intelligente, enfin, moi perso, je trouve, c'est que du coup, tu t'es pas remise en question. Enfin, si, j'imagine aussi, mais tu as eu l'intelligence de chercher des infos et de chercher ce qu'il a pu avoir, quoi, ce qu'il avait, entre guillemets. Ce qu'il
a J'étais bien entourée. Pour
oui, être voilà.
honnête, j'ai été bien entourée. J'étais entourée de personnes qui m'ont amené aussi à me poser des questions, qui m'ont amené du coup à chercher des réponses.
Donc, tu as pu partager quand même. Ouais.
Je considère pas, je pense que les personnes qui s'en sortent, c'est soit des personnes qui sont très bien entourées, c'est très important d'être entourée. Les pervers narcissiques, on l'a un peu entendu dans les témoignages précédents, ils cherchent à nous couper du monde extérieur. Ils cherchent à nous isoler parce que diviser pour mieux régner, hein, on n'a rien inventé. Et par chance, moi, mes amis sont restés. Et donc, du coup, ça m'a permis de passer au-dessus et de me remettre en question. Et aussi, c'est lui qui m'a quittée, c'est pas moi. Et je pense qu'il m'a quitté avec le recul parce que comme il n'existe que si on a une image positive d'eux, c'est pour ça qu'il recherche une victime. C'est pour avoir une sorte de fan, de quelqu'un qui les adule. Donc comme il avait remarqué que j'avais remarqué qu'il avait un problème psychiatrique grave, il savait qu'il ne pourrait plus briller dans mes yeux de la même manière, que j'avais une forme de pitié pour lui, une forme d'angoisse. Et je pense qu'il m'a quitté pour ça en fait. Et heureusement, aujourd'hui je lui dis merci, c'est la chose la plus intelligente qu'il ait faite.
Et quand tu disais diviser pour mieux régner, ça me rappelle un petit peu entre guillemets ce qu'avait tenté de faire du coup le père de Maëva, quoi, entre guillemets. Ouais. Et du coup, ce qu'il n'a pas réussi à faire finalement, quoi.
Non, mais c'est plus facile dans mon cas que dans le cas de Maëva, pour le coup là-dessus, parce que moi, mes amis, ils habitaient Strasbourg.
Ouais, c'est ça.
Lui, il était dans le Nord avec moi, donc quelque part, j'avais un peu une sorte de havre de paix derrière moi, où je savais que je pouvais me replier en cas de panique, on va dire, alors que Maëva, c'était dans son propre foyer. Aucun échappatoire, contrairement à moi.
C'est clair. Ouais, le cercle était complètement différent. Ouais. C'est clair que là,
oui, ben, quand ça touche la famille, je pense que c'est beaucoup plus difficile.
Mm-hmm, c'est clair. Bon, ben, grosse expérience en tout cas. C'est vrai que là, en très peu de temps, donc, ça doit chambouler l'esprit.
Ben, ça change la manière de voir les choses. Ça... Mais pas forcément en mal, parce que souvent, moi je pense que dans la vie, un mal vaut un bien. Et ce qui est difficile, on va dire, après, après une relation comme ça, c'est d'essayer de lui donner du sens. Et de se dire pourquoi. Et moi, je me suis dit que finalement, ça a été un révélateur de quelque chose que je n'aurais peut-être pas vu en moi sinon. Et que je me suis construite par rapport à ça. Mais finalement, ça allait mieux à partir du moment où j'ai accepté l'idée que j'avais peut-être une part de responsabilité. Étrangement. Parce que se victimiser, ça va un temps, ça aide. On est dans la compassion, on est dans... Mais au bout d'un moment, il faut faire sa vie. Et pour faire sa vie, il faut avoir un peu de force en soi. Et se dire que ça peut nous arriver à n'importe quel moment, qu'on n'a aucune prise dessus. Finalement, est-ce que c'est pas plus ou moins dur que de se dire qu'on a une part de responsabilité qu'il faut assumer ?
Ouais, c'est clair. Et du coup, je reviens un petit peu sur ce que, bah, sur le final qui est Séraphine et du coup son blog, parce que du coup Séraphine a en fait le thème de son propre blog,
oui.
que sont donc les PN.
Oui, voilà.
Et donc, bah, je te laisse la parole cette fois-ci, parce qu'en fait là-ci c'est encore une fois une expérience complètement différente là aussi.
Compente, mais qui reprend à la fois tous les bouts des histoires de tout le monde. Donc c'est ça qui est un peu rigolo. Donc ça fait un peu le condensé résumé. Mais c'est vrai que moi, c'est relativement différent dans le sens où j'étais mariée, j'avais des enfants, quand j'ai fait la connaissance de mon PN. Alors à l'époque, mon couple y va moyen, on peut le dire. Je viens d'avoir deux beaux petits jumeaux qui m'épuisent au-delà de tout ce qu'on pourrait penser, imaginer. Et après 2 ans quasi non-stop à m'être occupée, je sors de la maison et je décide de m'inscrire à une salle de sport. Donc j'avais pas réussi à perdre tous mes kilos de grossesse, donc je me dis bah voilà, je vais en salle de sport. Ça me changeait les idées et ça va redorer un petit peu mon blason narcissique. Et comme une débile, je m'inscris à son cours sans savoir finalement les conséquences que ça allait avoir.
Ah, donc lui et, était de.
C'était mon prof de sport en fait.
Ah
ouais.
Ok.
Et ouais. Et donc je m'inscris là et dès le début le mec me traite mais vraiment comme une princesse. Il est aux petits soins, il parle avec moi, il me fait des sourires enjôleurs. Bon, il était beau garçon, donc ça aidait aussi. Mais bon, voilà, je lui fais un sourire ou deux et sur le moment, je ne relève pas trop. Deuxième semaine, pareil. Troisième semaine, quatrième, un mois se passe, etc. etc. Et le mec m'ajoute sur Facebook, me parle de plus en plus. Et on se trouve, mais... une foultitude de points communs. Donc moi, je lui parle un peu de ma vie, je lui révèle un peu mes passions. Moi, j'ai fait l'histoire de l'art, donc je suis très intéressée par la civilisation égyptienne. Et ben, comme par hasard, lui, c'est un passionné de l'Égypte. Alors, je saurais, après qu'il n'en calait pas une civilisation égyptienne, mais bon, ça, je le saurais que plus tard. Très vite aussi, je commence à lui faire 2-3 confidences, parce que voilà, j'ai une adolescence aussi un peu compliquée. avec peut-être un paternel que je soupçonne d'être lui aussi un peu pervers narcissique, mais bon, voilà, enfin quelque chose de relativement dur, enfin très très compliqué au niveau du harcèlement psychologique aussi. Et comme par hasard, ben lui est enfant battu, machin, mais tu te rends pas compte, on doit être des âmes sœurs, c'est tellement magnifique de tomber sur quelqu'un comme toi, et blablabla, et blablabla. Et au fur et à mesure de parole, mais je tombe complètement dans le panneau. Alors, en plus de ça, ben, c'est un gars qui a beaucoup plus d'expérience que moi, donc il avait 15 ans de plus que moi. Il avait beaucoup voyagé, il semblait très cultivé, il avait une carrière de mannequin derrière lui, il avait sauvé des enfants en Afrique, la totale. Alors, je saurais par après que tout cela est absolument faux. Il passait aussi pour s'occuper de sa mère qui avait le cancer, etc., qu'il hébergeait chez lui, qu'il était chez, enfin, tout le temps à son chevet, etc., ce qui a été faux aussi, et ce qui m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de peine, parce que c'était à chaque fois des mensonges où finalement je me suis dit, mais tu peux pas remettre en doute sa parole, c'est tellement horrible de mentir sur des trucs pareils. Qui irait penser que quelqu'un ment sur le fait qu'il a été battu par son père, qu'il s'occupe de sa mère malade, que son frère a des accidents de voiture, etc. Pour moi, c'était impensable, quoi. Donc, j'ai cru vraiment comme une noix tout ce qu'il m'a dit pendant la première partie de la relation, en continuant de l'admirer, parce que voilà, il était vraiment admirable, charismatique, enfin, il avait des... Il évoquait des prouesses sportives hors du commun, etc. Donc, je suis vraiment sous le charme et je suis vraiment, stupide devant. Parce que, oui, voilà, je deviens obsédée, en fait, par ce gars. Alors que, je sais pas, moi, je suis quelqu'un de plutôt rationnel, cartésienne, machin. Jamais de la vie, j'aurais pensé tromper mon mari avec un gars comme ça. Mais jamais. Et donc, la relation évolue et vient le moment fatidique où il me donne un premier rendez-vous. Alors, déjà, quelques mois de relation où, c'est des attentions tout le temps. Alors, c'était un contact aussi permanent. Donc ça, on se rend pas bien compte, mais une fois qu'il a étendu son emprise, il m'a coupé de tous mes potes du sport qu'on pratiquait ensemble. Il m'a soigneusement lié des gens qui pouvaient tenir des avis négatifs sur lui. Et il maintenait vraiment le contact permanent, que ce soit par Facebook, par message privé, par SMS. Tout le temps. Et que je t'aime, et que t'es la meilleure, et que t'es la plus belle, et machin. Il faut absolument qu'on se voit et qu'on laisse exprimer notre passion. Donc, on se donne rendez-vous, on se prend une chambre, et puis voilà. Alors, entre-temps, moi, c'était quand même une relation qui me prenait beaucoup d'énergie, parce que tout le temps sur le qui-vive, est-ce qu'il m'envoie un message, est-ce qu'il m'en envoie pas, machin. Il fallait absolument que je sois présente comme il envoyait, parce que quand j'étais pas là, c'était tout de suite la questionnette, comme j'appelais ça, tu faisais quoi, t'étais avec qui, etc. Donc, il fallait vraiment que je sois disponible pour lui, 24/24.
Et tu me dis une double déjà, vie, là, finalement.
Tout à fait. Alors que, honnêtement, jamais de la vie, je me serais imaginée dans une situation pareille, quoi. Et donc voilà, ça me prend du temps, ça me prend l'énergie, je perds de plus en plus de poids, mais à la limite, moi j'étais là pour ça, donc ça m'inquiète pas, je passe de moins en moins de temps avec mes petits bouts. À ce moment-là, ça ne m'alarme pas encore. Il me fait donc cette grande déclaration, il réserve la chambre, il me dit, voilà, tel jour, on y va, yop la boum. Et le matin même, donc moi je m'étais préparée, je m'étais quand même confectionné un alibi, etc. Et le matin même, il me dit, non, finalement, c'est pas possible. Ok. Donc, je lui demande quand même des explications, pourquoi, comment, tu te rends pas compte, j'ai pris sur moi, j'étais stressée, j'étais pas bien, parce que malgré les problèmes de couple que j'avais avec mon cher et tendre, ça ne justifiait pas que je fasse quelque chose comme ça, quoi. Et pendant 1h30, 2h, pas de réponse. Et là, je me dis, waouh, le mec, il est 24/24 connecté avec moi, tout le temps, chaque jour que Dieu fait, et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Je me dis, ouais, il y a peut-être un problème. Et de rage, je lui envoie un SMS rageux, haineux, en lui disant, écoute, puisque c'est comme ça, c'est bon, c'est terminé. Et il m'envoie un seul SMS en me disant, écoute, oui, tu as raison, soyons amis. D'accord. Et là, honnêtement, je tombe des nues. Enfin, ce mec, il était devenu, mais vraiment, tout pour moi. C'était la première personne à qui je parlais en me levant, à qui je parlais en allant me coucher. On était tout le temps ensemble. Il se comportait comme si je appartenais, entre guillemets, au cours. Enfin, honnêtement, je tombais des nues, quoi. Passer du tout au rien comme ça, ça m'a foutu, mais mal à un point. Donc, arrive le moment où je rentre à la maison, où je dois expliquer à mon mari que finalement je suis pas en formation, je sais plus ce que j'avais dit. Et à ce moment-là, mon mari me dit, oui, je sais, j'ai vu les messages. Ah. Ah, oui. Super. Bah, là, pour le coup, ça fait quand même relativement mal aux fesses. Et je lui explique, ben voilà, je suis tombée sur ce gars, je suis désolée, je pensais pas faire ça, mais je sais pas comment m'en passer, je sais pas où j'en suis, je me sens pas bien depuis que les petits sont là. Je sortais quand même une grosse dépression postpartum à ce moment-là. Et je lui dis, voilà, écoute, je sais pas où j'en suis. J'ai le sentiment d'avoir le... C'est horrible de lui dire ça. Et je me revois encore lui dire, mais j'ai le sentiment d'avoir le cœur brisé, mais c'est comme ça, voilà, je suis désolée. Et à ce moment-là, lui, il fait un truc, mais de fabuleux et de merveilleux. Il me dit, bah ok, c'est pas grave, je te pardonne. Alors pour le coup, grand soulagement quand même. Cela dit, je me tape quand même 2 bons mois de semi-dépression parce que j'étais pas bien. Quand pendant 2 mois, je vais pas avoir de contact avec lui. Non, bah non, ce mec, c'est... Enfin, tant pis, quoi, tu peux pas jeter quelqu'un comme ça. Et au bout de quelques semaines, je reçois un message d'un de mes amis dont il avait tenté de m'éloigner en me disant, bah écoute, je vois que tu vas pas bien. Parce que je continue à aller au cours quand même. Je le voyais, il faisait comme si de rien n'était, il continuait à parler à tout le monde, à draguer d'autres filles devant moi, enfin tout va bien, la grande classe. Et il me dit, bah oui, je vois que tu vas pas bien, tu devrais peut-être parler à une certaine personne qui a eu plus ou moins la même expérience que toi. Mmh. Et là, il me met en relation avec une ancienne maîtresse à lui, qui était toujours du cours de sport et qui venait au cours un peu avant, quelques semaines, enfin qui a terminé ses cours quelques semaines avant que moi je n'arrive. Et elle me dit, bah oui, écoute, moi j'ai eu telle expérience avec ce gars-là, ce mec, et c'est elle qui me lâche le mot, c'est un pervers narcissique, ah oui. Il m'a usé jusqu'à la moelle, il m'a exploité financièrement, je sors de X mois de dépression, il m'a fait quitter mon mari et perdre la garde de son petit, il faut vraiment que tu en éloignes le plus rapidement possible, c'est juste pas possible, il faut absolument pas que tu restes près de ce gars-là. Ok, bah alors la pilule a du mal à passer. Elle me dit, mais c'est pas tout, il y a 2 autres filles aussi. Ah, il y a 2 autres filles aussi, ok. Donc, je contacte les 2 autres filles. Alors,
en même temps, tu veux dire
chou... Oui, en même temps.
Ah ouais.
Donc, il était avec les 3 en même temps avant que moi je n'arrive. Et en fait, les 3 ont plus ou moins découvert le poteau rose en même temps. Ce sont tous les 3 partis. Et moi, je suis arrivée sur terrain 9, quoi. La page était vierge et il a recommencé son manège avec moi. Et donc, mais c'était... À chaque fois, des cas horribles, donc elle qui quitte son mari, qui perd son petit bout atroce, une autre dame qui était veuve à l'époque, qui se met avec lui, alors que sa première relation depuis que son mari est décédé, qui l'invite chez elle avec ses 2 filles, etc., qui le présente à ses 2 filles, pour finalement voir qui se barre au bout de 3 mois de relation sur un SMS. Elle ne reverra plus jamais après ça.
D'accord.
Et la dernière qui va aussi manipuler en disant que, oh, je sais plus trop, enfin, quelque chose qui tombait bien, enfin, elle faisait un mémoire sur un particulier et lui était l'expert dans ce truc particulier, donc il l'approche comme ça, il l'entraîne chez lui et finalement elle sera sauvée finalement parce que la femme de ce gars-là va arriver et que voilà quoi, il va pas pouvoir continuer son baratin avec elle. Mais à chaque fois, vraiment des histoires sordides. Et je me dis, ma pauvre fille, tu peux pas tomber là-dedans, prends ton courage à deux mains et quitte la salle de sport. Et est-ce senti qu'à ce moment-là, j'étais plus déterminée ou j'en sais rien, il me recommence en love bombing en disant que, voilà, qu'il aurait dû m'avouer ça dès le début, mais qu'avec moi, c'est différent. Que cette fille-là, oui, peut-être qu'elle le traite de pervers narcissique, mais en fait, c'est elle, la perverse narcissique, et c'est elle qui le harcèle et qui machin et tout. Et il me prouve, pour me le prouver, il me montre des photos d'elle, se disant qu'elle lui aurait envoyé, harcelé avec des photos d'elle en petite tenue, etc. Bref. Et je sais pas, enfin par désespoir, par ennui, enfin parce qu'il me manquait, je peux pas l'expliquer, je peux pas expliquer autrement par le fait que j'étais vraiment obsédée par ce gars, mais je retombe en panneau. Je crois absolument tout ce qu'il me dit, que avec moi c'est différent, qu'avec moi il sent bien, qu'il fait des choses pour moi qu'il n'a jamais faites avec les autres, etc. Et je retombe en panneau une deuxième fois. On reprend la relation là où elle s'est stoppée, à la différence que cette fois-ci, mon mari, qui mérite vraiment une auréole, me dit, bah ok, t'as besoin de cette expérience-là, vas-y, fais-la, tu vas te planter, je sais que tu vas te planter, je vais te ramasser la cuillère, mais fais-la, tu verras bien, ça ne te mènera à rien. Et on entreprend alors une relation suivie qui durera pour le coup 7-8 mois. Donc j'ai en tout 1 an de relation houleuse avec lui. Et pareil, je recommence avec lui et tout se passe bien, tout est merveilleux, c'est du contact 24-24, c'est vraiment vraiment la lune de miel. Et au bout d'un certain temps, il me dit, bah voilà, écoute, moi avec ma femme, parce qu'il était marié, il avait un enfant par ailleurs, avec ma femme, ça ne va plus. Donc je compte la quitter. Est-ce que si je la quitte, voilà, tu pars avec moi, etc. Et je sais pas ce qui va vraiment me sauver à ce moment-là, mais j'ai un gros doute. Sur le coup, c'est vrai que le témoignage de ses maîtresses m'ont pas vraiment électrisé tout, mais c'était quand même resté dans un coin de ma tête. Donc je dis, bah, repense-y, il y a tes enfants, ton mari, c'est pas possible. Et à ce moment-là, c'est moi qui le manipule, entre guillemets. Et je lui dis oui, mais je le pense pas. D'accord. Je lui dis oui, on va faire ça, on va partir ensemble, c'est merveilleux. Et je lui dis, bah voilà, laisse-moi le temps de passer mon permis, laisse-moi le temps d'avoir une situation stable, et ensuite on s'en va. Parfait, parfait. Il a l'air content, il a l'air satisfait. Et à partir du moment où il a l'impression que je suis ferrée, il relâche un petit peu son attention. Donc je remarque qu'il se contredit dans ce qu'il dit, qu'il y a une grosse partie de mytho qui était vraiment trop gros pour être honnête, parce que bon, c'est accumulé toutes les années avec tout ce qu'il a fait. Ce mec, c'est Doctor Who, quoi. Il a 100 ans, et puis... voilà. De plus en... Et finalement, le masque s'effrite, quoi. Je commence à le voir un peu comme il est vraiment, bah, que finalement il n'est pas si intéressant que ça, que tous les points communs qu'on a ensemble, bah, quelque part c'est moi qui donne l'info et lui qui rebondit dessus. Mais moi je sais rien de lui. Je n'ai pas vraiment de détails neufs, j'apprends jamais rien de lui. C'est à chaque fois lui vraiment qui va construire un discours, qui va essayer de jouer des coups pour en savoir plus et ensuite s'infiltrer dans les failles plutôt qu'avoir une vraie discussion posée. Donc, c'est vraiment très lent, quoi. C'est vraiment par bris. Et je fais le lien avec ce que m'a dit son ex-maîtresse en me disant, mais dans quoi tu t'embarques? Dans quoi tu t'embarques? Alors j'y vais quand même, hein. Et j'y vais de bon cœur, hein. Mais je dis,
j'ai
une question.
Ouais. Dis-moi. Est-ce que c'est pas plutôt, enfin, est-ce que c'est vraiment le masque qui s'effrite ou le fait que, étant donné que justement t'as gardé en tête les mémoires de, enfin, la mémoire de ce que t'a dit sa maîtresse? Qui fait que tu remarques tout ça, sachant que le fait qu'il t'ait dit qu'il allait quitter sa femme et tout, ça t'a mis le doute. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui fait que tu finis par voir tout ça?
Mais en fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment que le mec faisait plus autant attention à ce qu'il me disait qu'avant. Ouais. Donc, tu vois, il essayait par exemple de délayer un peu de mensonges dans de la vérité. Et là, c'était vraiment des trucs mais grossiers, quoi. Qu'il était à l'hôpital pour son frère, pour son deuxième frère, alors qu'il n'avait pas de deuxième frère. Enfin, tu vois, ça en venait à ce type de mytho, là, quoi. C'était vraiment trop gros. Et donc, voilà. Des mensonges qui me faisaient mal, en fait. Parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai une enfance un peu compliquée. Et le fait qu'il ait aucun qu'il appuie là-dessus, je me suis dit, toi, tu vas trop loin. Tu te rends pas compte, mais tu vas trop loin. Alors, il a essayé de me montrer des pseudo-blessures qu'il avait reçues pseudo de son père, alors que je savais pertinemment que c'est faux. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que ce mec l'arrête. Il faut que j'essaye d'entreprendre un travail sur moi-même pour essayer de me détacher de lui. Donc, je rentre dans une espèce de phase où j'essaye de me détacher de lui, mais où je vois bien que je galère un truc. Je n'y arrive pas. Je suis tellement encore sous emprise, tellement dépendante de lui, parce que c'était vraiment ça, c'était vraiment de la dépendance, mais même à ses mensonges, hein, tout ce qu'il me disait, même si je savais que c'était faux, il me fallait ma dose, quoi. C'était devenu ma drogue, il me fallait vraiment ma dose de ce gars. Et c'est vrai, il a vraiment fallu que je comprenne qu'il essaye activement de me faire du mal, activement de me bouffer pour que ça s'arrête. Que mon mari vienne me dire, mais attention, ce qu'il te fait là, c'est vraiment contre toi, c'est agir contre toi pour que vraiment j'ouvre les yeux et que je me dise non, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que j'arrête. C'était juste plus possible. Et j'ai eu heureusement les conseils de très bons amis qui m'ont dit, mais enfin, te rends pas compte, tu t'éteins. Ma principale qualité, c'est peut-être ça, c'est être un peu enjoué, enthousiaste, spontané, tout ce que tu veux. Et là, non, j'y perdais mon énergie, j'ai perdu le sommeil, j'ai contracté une espèce de maladie automatique bizarre qui m'a fait vraiment perdre l'appétit du jour au lendemain. J'ai perdu 15 kilos en l'espace de quelques mois. J'en suis tombée malade de ce gars, tellement c'était une espèce de pression affective. Il était tellement toujours en demande que moi je lui dise que c'était le plus beau, que je l'aimais, que... Intenable. Enfin, moi j'ai perdu mais un temps monumental, ma santé, et franchement j'aurais pu y perdre ma famille aussi, quoi. Enfin, c'était vraiment pas anodin. Les gens... se trompent sur les peines en pensant qu'ils sont juste bêtement méchants. Ces gens-là, ils ne sont pas bêtement méchants, ce serait vraiment les sous-estimer, les croire juste méchants. C'est des gens qui n'ont pas d'autre but dans la vie que de pourrir la vôtre. De bouffer ce qui fait votre personnalité, tout ce qui fait que vous êtes bien, respecté, admiré par les gens, pour les prendre pour eux, quoi, et se faire admirer pour vos qualités à vous. Enfin, c'est vraiment un truc psychologique de fou. Enfin, moi, ça m'a, en tout cas, dévastée sur le moment. Me rendre compte de ça, je me suis dit, allez, c'est bon, là, à la prochaine entourloupe, j'en profite, je mets tout sur la table et je le quitte avec perte et fracas. Et ça n'a pas loupé, donc, mais c'était à chaque fois des espèces de petites provocations insidieuses. Donc, moi, je pouvais pas évoquer le fait que j'étais mariée, machin, machin, et lui placarder sur son mur, par exemple, des grandes déclarations d'amour pour sa femme, remettre les photos de leur mariage, enfin, vraiment une espèce de torture psychologique à petit feu, parce que, enfin, je veux pas le nier, enfin, moi, j'aimais ce gars, enfin, franchement, il était vraiment tout pour moi à un moment donné de ma vie, et j'ai vraiment le sentiment qu'il voulait m'assassiner intellectuellement, psychologiquement, en tout cas. Et arrive un xème rendez-vous qu'il annule comme ça du jour au lendemain, parce que c'était toujours tout chaud, puis tout froid, puis il était 24 sur 24 avec moi, et puis tout d'un coup, il décidait de rompre le contact pendant une semaine, comme ça, j'avais pas de nouvelles, bah écoute, ok, vite à vie. Et là, je prends le taureau par les cornes, il me dit, bon là, j'annule telle sortie pour une raison, encore un truc, mais idiot, hein, enfin, vraiment un mensonge grossier. Et je lui dis, bah ok, si tu viens pas, demain, bah pour moi c'est fini. Et au début, il le prend à la rigolade. Je dis non, non, tu comprends pas, c'est fini, mais je viens même plus au club, c'est fini, je t'en vois plus. Et il me dit, bah écoute, puisque tu le prends comme ça, t'es vraiment de mauvais poil, j'en ai marre de passer mon temps à essayer de te rassurer sur tes besoins affectifs. Alors que, honnêtement, c'était plus moi qui devais le rassurer que lui, pas l'inverse. Écoute, t'as raison, arrêtons-en là. Ok. Et je stoppe le dialogue avec lui. Entre temps, j'avais pas mal lu sur le sujet, donc j'étais forte de mes bonnes résolutions pour établir, bah, j'appelle vraiment le no-contact, ce qui est vraiment aucun contact avec le PN, ni visuel, ni message, ni machin, etc. Et je tiens bon une semaine. Après une semaine, il me relance. Je réponds de nouveau pas. Il me voit pas à la salle. Il me renvoie des messages. Et encore, et encore. Et au fur et à mesure où il avait l'impression de perdre le contact et l'emprise qu'il avait sur moi, ça empire. Donc ça a été au début des menaces. Je passe sur les trucs débiles, genre brûler ma maison, écorcher mes enfants, au genre de trucs, bref, des menaces débiles de gamins immatures. Ensuite, ça a été plus concret, donc il est venu jusque chez moi, frapper à ma porte, menacer de tout casser, de vouloir parler à mon mari, parce que lui ne savait pas que mon mari était au courant, pour le coup. Ça a été me rencontrer à des endroits incongrus, donc il venait dans ma ville pour que je tombe sur lui par hasard, il faisait parler de moi par des personnes interposées, il a diffusé aussi des photos de moi, parce qu'apparemment c'était une technique qu'il a beaucoup éprouvée, celle-là, des photos de moi en disant que je le harcelais alors que lui-même avait pris ses photos. Enfin, tout un tas de trucs vraiment pour me faire céder moralement. Et au final, ça a fini par se tasser. J'ai porté plainte deux fois à la police pour que ce mec me laisse tranquille. Et maintenant, je dois dire, touchant du bois, j'en entends plus parler. Mais c'est un problème qu'on n'a pas encore évoqué et qui fait pourtant partie intégrante de la psychologie des PN, c'est que c'est des mecs qui ne lâchent pas. Donc, si jamais vous avez le malheur de sortir de son emprise, c'est des gens qui vont vous relancer, qui vont essayer de se rappeler à votre bon souvenir, qui vont, par des moyens interposés, par des personnes interposées, se rappeler à vous. C'est vraiment difficile de s'en détacher, difficile de s'en défaire. Et vous avez beau être armé de la meilleure volonté du monde, si vous n'êtes pas bien informé, si vous n'êtes pas bien entouré, et si vous ne respectez pas scrupuleusement justement ces règles de nos contacts, à mon sens, c'est impossible de s'en sortir. C'est un espèce de cercle vicieux, on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble, etc. C'est vraiment, vraiment une situation inextricable, quoi. Et c'était juste... Dis-moi.
Juste là-dessus, justement, sur le « il relance tout le temps » et tout. Nous, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de manipuler mon petit frère qui avait 10 ans. Donc, il venait devant chez nous. Et mon petit frère, il allait voir ma mère en disant « Oh, mais il me fait trop pitié et tout. Pourquoi on est parti ?» Tout ça, quoi.
Ouais, clairement.
Donc, ma mère lui a dit d'aller voir ailleurs et que si elle le revoyait, elle ne savait pas, mais peut-être qu'elle allait le tuer, en fait. Ouais. Il n'est jamais revenu.
Mais moi, il a vraiment fallu qu'il y ait vraiment une menace chez lui, qu'il reçoive la plainte chez lui, et je soupçonne que ce soit sa femme qui soit tombée dessus par inadvertance, quoi, pour que vraiment ça le stoppe dans son entreprise de destruction, quoi. Parce que même sans être avec lui, il continuait quand même à me pourrir la vie, quoi. C'est vraiment le malsain poussé à l'extrême. Pour moi, c'est vraiment des gens qui ne recherchent que la destruction d'autrui pour exister. Et ça, c'est impardonnable. Impardonnable.
Mais ça, c'est vrai. Je l'ai retrouvé un peu chez mon père qui envoyait des lettres à ma mère. Alors, mon père, très intelligent, ne signe pas. Parce qu'on peut écrire une lettre avec même à la main. Tant qu'il n'y a pas la signature, le prénom, on ne peut pas prouver que c'est qui l'a écrit. Du coup, il envoyait de belles lettres à ma mère. Et ma mère les lisait. À chaque fois, elle était vraiment mal. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, maintenant stop, tu n'ouvres pas cette lettre, tu ne la lis pas, on la met dans une enveloppe et on lui renvoie. Et à partir du moment où on a fait ça, il n'a plus envoyé une seule lettre.
Ouais. T'as dit un truc très, je trouve très vrai avant, t'as parlé de drogue. Et je pense que c'est ce qui définit mieux la relation. En fait, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'on finit par être dans un état, non pas d'amour, parce que c'est pas d'amour, c'est de la dépendance affective. On est dépendant de l'autre. Et c'est pour ça que c'est si dur de s'en sortir. Et en fait, c'est une interdépendance. C'est pas que la victime qui est dépendante de son pervers. Hein. Le pervers narcissique, une dépendance vis-à-vis de sa victime, c'est une interdépendance qui nuit avant tout à la victime et à l'entourage de la victime.
Oui, donc clairement.
Mais t'as dit mon mari, parce que je trouve que c'est, il a une attitude assez extraordinaire dans cette histoire.
Oui, clairement. Mais en fait, ça a été le premier, lui, à remarquer que quelque chose allait pas, qu'il y avait quelque chose de pas naturel. Ça dépassait le cadre, je sais pas, d'une liaison extra-conjugale où, allez, t'as un kiff pour quelqu'un. Et puis voilà, tu fais ton expérience. Et puis, lui, c'était le premier à déceler qu'il y avait vraiment un jeu de manipulation, quoi, de piège qui s'est vraiment refermé. Et que le mec, tant qu'il m'avait pas eu et sucé jusqu'à la moelle, il n'aurait pas été contenté. Mais je rebondis ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que c'est toi qui disais, Lucie, c'était pas de l'amour, c'était de mon prince charmant, etc. Et tout. J'étais pas amoureuse de lui en tant que tel, parce que lui, comme tu disais, n'a pas de personnalité, mais j'étais folle amoureuse de l'image qu'il me renvoyait de lui-même, quoi.
C'est ça, oui. On croit, je me suis peut-être mal exprimée avant, mais c'est exactement ça, c'est qu'on calque une image sur lui. C'est pour ça qu'avant j'ai parlé de la métaphore de la chaise, on met ce qu'on veut dessus. C'est qu'on crée finalement ce qu'on a envie de voir sur l'autre, c'est une page blanche. Et en fait, on tombe amoureux de ce qu'on veut. Et c'est en ça que la victime a une part de responsabilité dans l'histoire. Oui.
Clairement.
À moindre échelle, c'est vrai que c'est avec un peu de recul, à moindre échelle, je trouve qu'en fait, vous m'arrêtez si je me plante, mais à moindre échelle, ce genre de personnage, ça me fait penser à une espèce de gourou de secte, en fait. Sauf qu'un gourou de secte, c'est à plus grande échelle. Mais un peine à moindre échelle sur une seule personne, c'est ça, en fait.
C'est le même mécanisme.
C'est ça, voilà.
C'est le même mécanisme.
Oui, c'est un peu un lavage de cerveau, enfin une dépersonnalisation, enfin c'est vraiment les mêmes choses.
Et pourquoi, alors je reviens du coup sur ton blog, pourquoi avoir eu l'idée de créer ce blog-là justement pour répondre?
Ouais, bah écoute, moi j'étais dans une situation assez compliquée où je pouvais pas en parler parce que c'était doublement honteux, déjà de me faire manipuler par ce mec-là, et d'autre part parce que j'étais quand même très très mariée, très en couple. Donc je me suis dit, je vais créer un blog anonyme et je vais écrire tout ce que j'ai sur le cœur. Alors ça a eu deux gros avantages. D'une part, ça m'a un peu vidé, ça m'a permis de prendre un peu de la distance par rapport à cette histoire-là qui m'a vraiment laissé vider toute énergie, et vraiment vider de toute joie, c'est vraiment le mot. Et d'un autre côté, moi aussi j'ai eu peur d'être dingue. Je me suis dit, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est lui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que t'es vraiment cette personne dingue, harceleuse qu'il décrit? Je dis non, voilà, je vais tout noter, comme ça si jamais un jour j'ai un doute, si jamais j'ai envie de craquer, j'aurai tout écrit sur le blog et je pourrais me dire, il s'est passé ça, t'as vécu ça, tu peux pas te permettre de recéder encore une fois. C'était pas possible. En fait, comme j'avais déjà quitté une fois, j'avais peur de retomber entre ses mains, dans ses griffes. Donc je me suis dit, ça c'était vraiment mon passeport pour la liberté, si tu veux. Et avec ça, j'étais sûre que je ne retomberais pas dans le même panneau. C'était plus possible.
Et dès que tu as ouvert ce blog-là, justement, est-ce que tu as eu des réactions tout de suite en disant, ah oui, effectivement, je me retrouve dans ce que tu dis là, ça tombe super bien. Est-ce que les gens, en fait, se sont livrés assez facilement lorsqu'ils ont découvert ton blog, en fait?
Mais écoute, ouais, moi j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mails. Beaucoup... Alors, pour. C'est pas toujours signé, parce que c'est souvent encore anonyme, parce que je te dis, il y a une espèce de honte un peu inhérente à ce genre de situation, de se faire manipuler, etc. Mais oui, énormément de femmes, et quelques hommes aussi, donc que ce soit via le blog ou via la page Facebook, qui me disaient mais oui, ah oui, je note quand même telle similitude, et qu'est-ce que t'as fait, et pourquoi. Et le blog, c'est aussi pour aider les gens, mais aussi convaincre de l'utilité du no-contact. Parce que c'est excessivement difficile de couper les ponts avec son PN, parce que voilà, pendant X temps, donc moi ça a été relativement court, mais il y a des gens qui vivent pendant 15 ans, qui se font manipuler la VSFO pendant 15 ans, c'est extrêmement difficile de couper les ponts. Donc je me suis dit, bah voilà, peut-être que si les gens voient qu'il y a un exemple qui marche, peut-être que ça les incitera aussi à sauver, quoi, parce que finalement, il y a plein de gens qui se disent qu'il n'y a pas de salut dans la fuite et que c'est un peu honteux, que c'est pas à nous de couper les ponts, que c'est pas à nous de fuir. Enfin, moi, j'ai changé de club de sport à ce moment-là. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais enfin, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'en vas ? Ben, je m'en vais parce que je sais que face à ce gars-là, je peux rien faire. Au point de vue de la méchanceté, au point de vue de la manipulation, je ne suis pas armée contre des gens comme ça. Moi, je suis quelqu'un de... Il y a des gens qui diraient naïf, mais voilà, j'assume, tant pis. Mais voilà, j'ai beaucoup de passion pour mon prochain. J'ai beaucoup d'enthousiasme, j'ai beaucoup vers les autres, et je suis pas armée pour faire face à des personnes qui n'ont aucun scrupule à ce point-là. Ouais. C'est tout.
C'est peut-être ça le plus dur, en fait. C'est qu'en fait, c'est de se dire qu'il faudra fuir de toute façon, quoi qu'il se passe, et que du coup, toute la rancœur que tu pourrais avoir contre ce gars-là, tu pourras rien faire contre lui, quoi. En fait.
Ah non, absolument rien. Parce que j'ai essayé de parler avec lui. Parler à un mur, ça aurait été pareil. Donc, je me suis aussi retrouvée, comme certains d'entre vous, face à lui, et il n'y a rien qui transparaît sur son visage. Ce que je dis n'a aucun écho en lui, et pire que ça, pour des choses que je lui disais où j'étais vraiment sûre de moi, il essaye de manipuler la vérité à son avantage. C'est que même si la vérité le trahit ou est à son désavantage, il va la tourner dans sa tête pour que ce soit toujours lui qui s'en sorte. Et ça, pour une victime, entre guillemets, c'est inacceptable, quoi. C'est vraiment se faire du mal pour rien. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Ils sont tellement soit coincés dans leur propre mytho, soit tellement dans la volonté de sortir gagnant de cette histoire que ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment faire le deuil des explications qu'on pourra avoir, parce qu'on n'en aura jamais. Il faut faire le deuil de la personne qu'on a aimée et qu'on pensait qu'il nous aimait, parce que c'est pas des gens qui aiment, hein, c'est des gens qui vous utilisent. On n'est pas l'amour de leur vie, on n'est pas leur âme sœur, on est des gens qui ont été une espèce de, je sais pas moi, de réserve d'énergie ou de réserve où vous allez puiser la satisfaction nécessaire à leur ego, mais on n'est certainement pas des personnes. On est moins que des objets. Le mien, il faisait à la limite peut-être plus attention à son vélo qu'à moi, parce que je ne valais pas plus qu'un objet.
C'est vrai que je trouve qu'il y a une frustration qui ressort quand on essaye de leur parler. Moi, mon ex, il avait tendance, quand je lui faisais un reproche, à me dire que il me disait miroir. Il me disait ce mot toujours pour dire que ce que je lui reprochais, en fait, c'est quelque chose que je me reprochais à moi. Et en fait, il y a une telle frustration quand on parle à ces personnes que on devient vraiment réellement fou. On devient réellement fou. On devient hystérique. Enfin, moi, je sais que je finissais en criant, en pleurant, je m'arrachais les cheveux, quoi.
Et il s'arrange généralement pour qu'il y ait des gens présents dans ce genre de moment, parce que du coup, tout le monde nous voit réellement comme des hystériques, et comme quoi le problème vient de nous.
Et donc, par rapport à... Vous savez que du coup, moi, je n'ai pas parlé par rapport à moi, même si je ne l'ai pas vécu directement, ce truc-là. Pour la petite histoire, du coup, moi, c'était plus par rapport, de manière donc, indirecte, par rapport à un couple d'amis, en fait. On a un couple d'amis qui est assez proche de nous. Et ce couple d'amis, donc, il y a là, de son côté à elle, donc, c'est du coup le mari de sa sœur, qui lui est un PN. Donc, ils se sont séparés assez récemment, du coup. Et donc, c'est un couple qui ont vécu ensemble il y a un certain nombre d'années. Donc, ils ont eu deux filles, entre autres. Et très rapidement, ce gars-là, en fait, s'est accroché. Mais comme vous toutes, en fait, il y a une grande phase de lune de miel, comme vous dites. En fait, il était très milieu, donc ils se sont rencontrés à ce moment-là. Elle est tombée sous le charme tout de suite, en fait. Mmh. Et très rapidement, ce gars-là est devenu, elle était devenue, elle, très donc, dépendante affective, effectivement. Elle a tout donné pour lui, en fait. Elle était, est enseignante, toujours. Et lui, en fait, n'avait absolument aucun travail. Et donc, elle lui a fait dépenser de l'argent, mais à n'en plus finir, en fait. Donc, il lui a fait ouvrir parce qu'il était passionné d'équestre. de passion, les chevaux, quoi, concrètement. Et donc, il lui a fait ouvrir un club, enfin, voilà, d'énormes projets titanesques, en fait. Et pour vous dire à quel point c'était assez ignoble ce qu'il a pu faire, c'est que bah, déjà, d'une part, il a détruit une bonne partie de sa famille à elle, et je sais que nos amis très proches, même lui, qui est un très bon pote à moi, est très touché moralement maintenant. Sachant qu'il a côtoyé d'autres peines que celui-là en plus, donc il n'a pas de bol. Mais en parlant de gestes ignobles, en fait, ils ont eu deux filles, donc, et l'aînée, à un moment donné, a contracté une maladie très grave, et elle en est décédée, en fait. Il a retourné le truc de façon à ce que ce soit elle qui soit du coup la responsable de sa mort, en fait. Et ouais, il a retourné le truc, en fait, concrètement, ouais, pour faire simple. Et c'était ignoble, quoi. Donc je connais pas tous les détails, mais voilà, j'ai su à ce moment-là ce que c'était que le mot PN, en fait. Moi, c'est eux qui me l'ont appris. Et quand ils m'ont dit toutes les abominations qu'il avait pu faire, c'était... En fait, ils croient pas, en fait. Ils croient absolument pas. Tu dis, c'est pas possible qu'une personne est capable de faire autant de trucs assez proches, quoi. Tu dis, tu n'y crois pas, absolument pas, quoi. Et en fait, si. Et c'est pour ça que du coup, je souhaitais faire ce podcast-là. C'est qu'en fait, comme je le disais au départ, c'est pour moi un sujet qui est pourtant assez méconnu, je trouve. Alors qu'en fait, il y a des tas de personnes qui nous entourent qui sont comme ça. La preuve, c'est que voilà. Et qui font vachement de mal à pas mal de monde. Et pas qu'à vous, c'est aussi à l'entourage proche, quoi. Oui. Et c'est ça qui est terrible, c'est que du coup il se passe des tas de choses, en fait. C'est que quand on est en dehors d'un couple, on voit pas ce qui se passe, on voit tout se passe bien en l'occurrence, etc. Et quand on voit ce qui se passe derrière, effectivement, on se dit mais c'est une catastrophe, quoi. Enfin, et il s'ensuit tout ce qui se passe après, quoi. Donc c'est la personne, bah, comme vous toutes là, qui vous en êtes remis. Heureusement, et avec beaucoup de séquelles pour, voilà, et pour certains d'entre vous, effectivement, faut s'en remettre. Mais voilà, ça, moi, je rebondis également sur Sonia, parce qu'en fait, on avait parlé l'autre fois du fait qu'on n'avait pas réussi à voir le film Mon Roi, justement, de Mai Wen. Je sais pas si vous avez entendu parler, vous avez vu ce film-là?
Oui, j'ai entendu, mais pas encore vu.
Et ouais, j'étais hyper déçu, je voulais le voir absolument avant le podcast, j'ai pas réussi à le voir.
Et ah, qui j'ai en... pleuré de.
Ouais, tu l'avais vu toi, Lucine, non? C'est ça?
Ouais, je l'ai vu, mais j'ai pleuré devant.
Ah ouais, d'accord.
Ah oui, parce que Mai Wen a réussi à faire un truc qui est difficile, c'est elle a réussi à être subtile, en fait. C'est que, effectivement, d'ailleurs, les gens autour de moi qui sont allés voir le film, les personnes qui ont de près ou de moins fréquenté un pervers narcissique, se sont tous rangés du côté de l'héroïne. Ils ont tout de suite vu le jeu, en fait, de l'acteur de Vincent Cassel, mais par contre toutes les personnes qui n'ont pas vécu ça ont pris justement l'actrice pour une hystérique et disent mais c'est de sa faute, elle avait qu'à partir, elle le veut bien, elle est complètement folle, et en fait je trouve que ça représente bien le problème, c'est trouver des gens pour nous soutenir, en fait, pour partir, pour se dire que le problème ne vient pas de nous, pas complètement, parce que tant qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas partir.
Ah, c'est ça. Et c'était la réaction aussi d'un de mes potes que j'ai vu ce matin. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce qu'il a vu ce fameux film-là? Il m'a dit oui, effectivement, et je voulais absolument avoir son avis. Et il a eu cette réaction-là, effectivement. Il est sorti de la séance super mal à l'aise, en fait. Il savait pas comment prendre ce film-là, en fait. Et c'est vrai que Mai Wen, en fait, a réussi à, même dans la façon de tourner, visiblement, elle a réussi sur la totalité du script, du scénario, ils ont gardé très peu de véritables paroles issues du script, en fait. Elle a voulu absolument à ce que les acteurs jouent de manière improvisée, etc. Et lors d'une interview de Vincent Cassel, j'ai vu ça il y a quelques jours, en fait, lui avait dit absolument qu'il avait dû improviser et même rajouter des trucs perso dans ce qu'il disait au bout d'un moment. L'actrice, voilà, a super bien joué. Hein. Je crois qu'il me semble qu'il avait eu la palme, il me semble bien, quand même. Enfin bref, voilà, et c'était super éprouvant pour elle, quoi.
Bah, si Vincent Cassel a improvisé, il est incroyablement convaincant au point où il devrait s'interroger, peut-être.
Mais c'est ce qu'il disait dans une de ses interviews, ce qu'il disait carrément, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il était comme elle, vraiment poussé le truc jusqu'au bout, en fait. Et lui avait dû vraiment, du coup, libérer certains souvenirs perso, et ça s'est ajouté. Visiblement, hein, moi j'ai pas vu le film, mais il y a certaines scènes, tu te dis, mais c'est un documentaire ou un film, quoi. Enfin...
Mais d'ailleurs, je crois que c'est le docteur Schmidt. Je fais un peu sa pub, mais en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé justement à comprendre comment ça fonctionnait. C'est une qui est spécialisée justement dans la relation entre les pervers et leurs victimes, et qui a elle-même été victime de pervers narcissiques. Elle s'est spécialisée là-dedans. Et je crois que c'est elle qui disait dans une de ses vidéos qu'on est tous, enfin, on peut tous passer en fait par des phases qui s'approche de la perversion narcissique. Des fois, en fait, c'est un mécanisme du cerveau qui est nécessaire, notamment quand on fait des choix très difficiles où il faut quelque part mettre en parenthèse notre affect, où il faut en fait sortir de soi. On peut, par moment, enfin, brièvement, être pervers tous au long de sa vie. Simplement que les pervers narcissiques, eux, ils sont bloqués dans ce mécanisme où ils ne ressentent pas d'empathie, en fait. Donc peut-être que Vincent Cassel, c'est pour ça qu'il a réussi à bien jouer, c'est qu'en fait, on peut tous être pervers. Simplement que tout le temps, bah, ça devient pathologique, quoi.
Ouais. C'est une question que je me posais en fait. Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu comme quelque part ?
Si, quand c'est nécessaire. C'est...
Ouais.
Mais c'est en fait, c'est n'importe quoi pris à l'excès devient pathologique. Ouais, n'importe quoi.
Et je reviens rapidement sur le blog de Séraphine. En fait, on va bientôt terminer, parce que ça fait un petit moment qu'on parle. Maintenant. Dans ton blog, un truc qui est super intéressant, c'est le fameux baromètre d'humeur en fait.
Oui.
En fait, tu, par rapport à ce que tu présentes, ce que tu publies, en fait, il y a un baromètre en fait qui indique ton état d'esprit. Je sais ça si j'ai bien compris.
C'est ça, oui.
Voilà. Au moment où tu postes ton article, c'est ça, voilà. Et je suis en train de me dire un truc, c'est qu'en fait, même Le Pen arrive dans ses démarches à ce que lui admette, enfin, à ce que vous soyez d'humeur, à ce que lui a envie d'avoir devant lui, en fait. C'est ce que je voulais.
Tout à fait.
Tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais c'est oui, ouais, c'est carrément ça. En fait, avec le recul, je me dis que moi, il me conditionnait pour les entrevues qu'on avait. Donc si un jour il avait envie que je sois fâchée pour aller à la confrontation et s'engueuler un coup, bah, il allait me mettre en boule. Si un jour il avait besoin que je sois douce pour me faire accepter des trucs, il allait agir pour que je sois conforme à ce qu'il voulait, pour faire ce qu'il avait envie à ce moment-là. Mais ça a été... très loin entre guillemets dans la dépersonnalisation, parce que bah, voilà, je l'ai dit en début, mais je pensais certainement pas jamais de ma vie avoir de relations extra-conjugales cachées envers mon mari. Je pensais certainement pas un jour penser à quitter mes petits pour entamer une relation avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est les gros trucs. Mais il y a eu plein de petits machins insidieux, aller à des events où j'avais rien à faire là, enfin, écouter des musiques qui me plaisaient pas juste parce que lui les aimait bien et parce qu'il fallait que je me mette un peu à niveau, entre guillemets. Il y avait, c'était faire accepter des choses un peu tendancieuses sur le plan sexuel ou des choses ainsi, mais ça a été très loin, voire trop loin, quoi. Enfin, dans les dernières semaines où on était ensemble, c'était des demandes pour me partager avec des copines, des potes, enfin voilà quoi.
Ouais, c'est clair. Et ça me fait penser.
C'est vraiment. Oui.
Ouais, ça me fait penser que du coup, tu vois, la fameuse la sœur de mon ami, du ouais. couple d'amis, en fait, quand tu la vois maintenant, ça fait, comme je disais, ça fait quelques années qu'ils étaient ensemble. Quand tu la vois maintenant, elle a réussi enfin à se séparer de lui, c'était hyper dur. Et maintenant, elle est heureuse, entre guillemets, dans le sens où elle se sent toujours épiée, etc. Parce qu'il y a toujours du coup, cette fameuse... Il lui reste un enfant, ce qui fait du coup, elle est toujours mineure. Donc, elle est toujours un petit peu épiée, elle se sent toujours un petit peu coincée par rapport à ça. Mais tu vois, ne serait-ce que culturellement parlant, elle a un gros train de retard, très sincèrement. Et tu sens que lui, il l'a conditionnée, comme tu disais, à ce qu'elle n'aime que ce que lui aime.
Oui, complètement. Complètement. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
Et du coup, tu sens qu'effectivement, il y a, tu sens bien que la manipulation, c'est sur tout, absolument tout. Et
D'ailleurs,
ouais.
Je disais que j'avais pas le droit de lire quand mon beau-père était là, mais on n'avait pas non plus de télé. On était coupés aussi de l'extérieur du monde par rapport à ça. On n'avait pas de télé. S'il y avait de la musique, c'était la sienne. On n'avait pas la radio. Tout ça, quoi.
Ah, mais c'est vrai,
un jour, il a acheté une télé, soi-disant pour nous faire plaisir avec un magnétoscope. Mais genre, on avait quelques cassettes et on les regardait en cachette quand les parents n'étaient pas là, quoi. Wow. On était devenus les pros pour tout éteindre, tout ranger en 2 secondes chrono en entendant la voiture rentrer dans le jardin, quoi.
Ah ouais, je vois.
Oui, moi, il retirait le câble. En fait, on avait un téléviseur et un ampli, enfin un tuner, et il retirait le câble reliant les deux. Donc, il le plantait, on branchait, et quand on entendait pareil la voiture ou quoi, on rangeait tout.
Faut qu'on trouve des plans de secours quand c'est comme ça.
Non, mais ça, tu deviens super rapide. Hein.
C'est clair. Mais et pour en finir, c'est que du coup, ce qui est le pire dans tout ça, c'est quand je vois mon couple d'amis, eux étaient bien conscients de ce qui se passait, parce qu'ils voyaient ce qui se passait, ils voyaient un petit peu la déchéance de, ils voyaient bien la déchéance de sa sœur, hein, du côté de son côté à elle, et ils ne pouvaient absolument rien faire. Eux étaient complètement en souffrance par rapport à ça, et ils ne pouvaient absolument rien faire. Donc voilà. Donc bon, on va peut-être en terminer là, finalement. On pourra en discuter des heures. Donc, en tout cas, je voulais remercier en tout cas, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé vos différents témoignages. On est tous avec toi, Aurélie, aussi.
Oui, carrément.
Donc, en espérant que tu puisses trouver une solution rapide et, à ce problème-là, finalement.
Ah, bah, je tiendrai tout le monde au courant. Et comme j'ai dit, le jour où je déménage, je fais un mois de crémaillère. On dort pas.
On refera un blablabla exprès pour ça. Mais non, mais voilà, qu'on espère vraiment le meilleur pour toi, pour tout ça, quand même. C'est vrai que c'est jamais drôle et, par rapport à ça. La preuve, c'est que les différentes situations qu'on a pu entendre, c'est toujours très, très compliqué. Hein. Après, j'avoue que pour celui de Lucille, ça m'a particulièrement choqué.
Il faut dire que le sujet des PN, c'est un sujet un peu infini. Hein.
Ah ouais. Mais bon, après chacun son expérience, donc voilà. Donc merci encore une fois pour vos témoignages et je mettrai le montage de mon émission dès que possible. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 heures d'émission maintenant, donc je ferai le plus tôt possible. Donc merci à vous encore une fois et je vous donne rendez-vous pour un prochain Blablabla en ce qui me concerne et je vous dis à très bientôt en tout cas. Donc merci à vous et à bientôt.
Merci à toi.
Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.